With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ça m'excite pas énormément la vision d'une société où tu as 20 méga-trusts qui contrôlent tout ce qui se passe dans le monde. Ça m'excite pas beaucoup.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alexandre Dana pour la seconde fois. Alexandre est le cofondateur et dirigeant de Live Mentor, une école en ligne pour les porteurs de projets. C'est le premier comeback sur Nouvelle École et vous allez comprendre pourquoi en un an, Alexandre a complètement changé Live Mentor. Il nous raconte tout ça. On parle d'entrepreneuriat à la sauce artisanale. Alexandre veut aider tous les passionnés à trouver et développer leurs projets en se posant les bonnes questions. Live Mentor a déjà fourni des formations avancées à plus de 2500 élèves dans 20 pays différents. Il explique comment lancer son projet. On parle de l'importance de démystifier l'entrepreneuriat et d'arrêter de se créer des problèmes. Si vous voulez vous lancer ou que c'est déjà le cas, cet épisode est pour vous. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute.
Est-ce que tu as commencé à l'enregistrement du podcast là ?
J'ai absolument commencé.
J'ai l'impression que tu as commencé. Hein.
Bien sûr que j'ai commencé. Moi, tu sais, j'aime cette spontanéité du début de... L'invité ne sait pas qu'il est enregistré.
Alors, au cas où il garderait ce passage dans le cut final, on est dans l'appartement d'Antonin avec des bougies. C'est des bougies parfumées, non ?
Ce sont des bougies anti-tabac. Parce qu'en fait, quand je me tape une grosse déprime, genre hier soir, genre tous les soirs, il m'arrive de craquer et d'acheter des cigarettes, figure-toi. Et quand je fume des cigarettes, ensuite, ça sent mauvais. Alors, je mets des bougies anti-tabac, mais ça donne une ambiance.
Ah, c'est pas des bougies qui t'empêchent de fumer, c'est des bougies que tu mets après avoir fumé.
Si tu connais des bougies qui t'empêchent de fumer, je suis preneur.
C'est des bougies camouflage.
Non, en fait,
il y a des bougies, il y a un petit thé à la vanille.
Oui, alors le thé à la vanille, c'est la petite touche récente. Mais parce que tu vois,
Il y a des plantes aussi chez toi.
Parce que j'annonce que je suis donc avec Alexandre Dana, le CEO de Live Mentor, et que ce n'est pas la première fois qu'Alexandre Dana passe sur Nouvelle École, puisqu'il est passé il y a environ un an. Et que depuis, Nouvelle École a beaucoup changé, car maintenant il y a du thé à la vanille, des bougies, et encore plus important, il y a des gens qui écoutent. Tu sais que j'ai regardé là. Donc en fait, quand je vais faire un petit peu de backstory. Hein. Quand Alexandre Dana est passé sur Nouvelle École il y a un an, on avait fait un Facebook Live. À l'époque, c'était mon premier Facebook Live. Je testais ce format comme idée de nouveau format, peut-être faire passer Nouvelle École sur Facebook Live. Et donc, on avait fait ça, et à un moment, tu me dis, on finit l'interview et en fait, j'oublie de couper le son. Et donc, sur le podcast qui est sur Apple, il y a 3, 4, 5 minutes à la fin où on a arrêté l'interview. Et du coup, il y a vraiment cette espèce de moment assez gênant. Vraiment, tout à l'heure, j'étais là, j'avais presque peur de ce qu'on allait dire, tu sais. Où on regarde un peu les stats, etc. Et là, je sais plus ce qu'il y a, genre... à 420 vues, pas mal et tout, tu sais, y a vraiment personne qui regarde, aucune question. Et donc voilà, Nouvelle École a bien changé, Alexandre.
Mais on s'était rendu compte qu'on était pas loin d'être sosie lors de ce Facebook Live. En tout cas, beaucoup de personnes avaient eu l'impression qu'on l'était. Mais peut-être c'est la qualité de la connexion et de la caméra qui nous rapprocher physiquement.
Écoute, pour avoir regardé la vidéo qui est, faut bien le dire, très très moche, d'autant qu'en plus je n'avais pas à l'époque de solution pour brancher le son, donc c'est le son de l'ordinateur et la caméra de l'iPhone. Et ben on avait le même t-shirt, on avait la même couleur de t-shirt et on avait la même, plus ou moins la même coupe de cheveux et on était tous les deux en trois quarts face à face, donc il y avait vraiment un côté symétrique, oui, en effet. Et donc Alexandre Dana est de retour sur Nouvelle École. Bonjour Alexandre.
Salut Antonin.
Je suis très content de t'avoir. C'est marrant, je mettrai au... C'est la première fois que je ferai un petit peu de montage sur cet épisode parce que donc j'ai réécouté, pour préparer ta venue, j'ai réécouté notre premier entretien, et qui est donc la première fois qu'on s'est rencontrés. Et en fait, dans cet entretien, il y a un moment, j'en parle parfois dans Nouvelle École, donc j'écoutais tout à l'heure et ça m'a frappé, il y a un moment où on parle de Live Mentor et tu me parles des difficultés, à une époque, vous gagnez pas d'argent, vous gagnez même votre argent en travaillant sur Live Mentor, vous payez comme ça.
On a toujours utilisé nous-mêmes le site. Donc les moments où ça allait le plus mal, on n'avait plus du tout de sous, on se payait pas. Bah, on donnait des cours sur le site et donc bah, déjà ça nous permettait nous de vivre littéralement.
Et je te pose la question, je te dis, t'as jamais douté de Live Mentor, tu t'es jamais dit je vais tout arrêter, etc.
Et ça t'est déjà arrivé de douter de la boîte complètement, entièrement, en fait il faut qu'on arrête.
Et là, tu me dis non, pas du tout.
Non.
Et vraiment, je crois qu'on entend, on m'entend faire gloops, et je passe immédiatement à l'autre question en balbutiant, en disant d'accord, alors.
Donc, t'as jamais. Et tu dis sur les galères de start-up un peu.
Parce que moi, à ce moment-là, j'étais dans une boîte que j'avais créée avec un ami, et pour le coup. Je me retrouvais pas trop quoi dans le truc, tu vois.
Bah je pense ouais, non je pense que tu le retranscris pas exactement comme ça s'est passé. La question c'était, si je me souviens bien, est-ce que t'as songé à un moment à arrêter Live Mentor? Et c'est vrai que sur ce projet j'ai jamais pensé l'arrêter. Par contre des doutes j'en ai toujours eu, j'en ai quasiment tous les jours, et comme n'importe quelle personne qui monte un projet, tu te remets en question, il y a des moments où ça va très très mal, il y a des moments où tu te dis que ça va jamais fonctionner. Mais moi, je suis pas allé au stade d'envisager sérieusement l'arrêt.
Mais t'as eu des doutes
de l'aventure.
Quand même. Parce que pour citer une amie qu'on a en commun, qui s'appelle Marjolaine Gondin, qui était passée juste avant toi sur Nouvelle École, je l'avais vue ensuite et je lui avais dit ouais, alors moi je lui ai posé cette question, il m'a dit qu'il avait aucun doute sur sa boîte, etc. Et j'étais vachement. Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait un petit sourire. Parce que donc, il faut savoir, c'est que tu as complètement changé Live Mentor.
Ouais.
Tu as complètement changé la formule.
Absolument.
Est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ce que, pourquoi tu as changé, de ce que tu as changé et quel a été ton cheminement intellectuel?
Écoute, donc c'est une histoire que je vais essayer de faire la plus simple possible. En deux mots, Live Mentor, c'est un site que j'ai créé durant mes études. J'étais encore étudiant et j'ai toujours adoré enseigner. Là, j'ai 29 ans, ça fait 10 ans que je donne des cours. J'ai commencé à donner des cours de mathématiques et d'économie il y a 10 ans justement, des cours particuliers, one to one, un élève, un prof. Moi, j'aidais des collégiens, j'aidais des lycéens. Et la première version de Live Mentor était un site de cours particuliers par webcam. J'avais recruté au total 15 000 profs qui donnaient des cours depuis leur ordinateur à des élèves collégiens et lycéens. Et après plusieurs années...
T'avais une grande plateforme de Skype, de cours sur Skype, quoi.
Exactement. Et après plusieurs années d'aventure, de réussite, mais aussi de déboires nombreux sur cette première version, je suis arrivé au constat que une énorme proportion des cours donnés sur le site n'étaient pas de bonne qualité.
Comment tu t'en es rendu compte ?
En écoutant les cours, en participant aux cours avec le prof et l'élève, en parlant énormément aux élèves, en parlant énormément aux profs, en constatant que la différence, elle se fait à la marge. Les cours n'étaient pas d'un niveau catastrophique, loin de là. Mais simplement, tu avais un petit noyau de profs, un petit noyau dur de 5%, 10% des profs qui étaient extrêmement impliqués, qui faisaient ce qui pour moi est du très bon enseignement, à savoir aller au-delà du cours, créer une relation vraiment forte avec l'élève, lui demander comment il se sent au début de la semaine, aller vers lui et ne pas attendre que ce soit toujours l'élève qui vienne vers toi, l'écouter, lui poser beaucoup de questions. J'avais 5%, 10% de mes profs qui faisaient ce travail-là, Et j'avais 90% de mes profs qui, sans être je m'en foutiste, ne s'impliquaient pas autant dans l'enseignement, ne s'impliquaient pas autant dans la relation qu'ils avaient avec les élèves.
T'as mis combien de temps à t'en rendre compte de ça ?
Plusieurs mois, je dirais un an.
Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu voulais pas trop le voir au début ?
En fait, c'est très complexe.
Mais fais simple alors.
La relation mentor-élève, c'est une relation qui est plus compliquée que la relation chauffeur-Uber-passager-Uber. Si tu prends un Uber et que tu mets trois fois plus de temps à arriver à destination que prévu, c'est chiffré, c'est normé, c'est concret, tu mets une mauvaise note et automatiquement, on sait que la prestation s'est mal passée. Est-ce que tu as déjà eu des mentors dans ta vie, des profs avec qui ça se passait moyennement, mais tu le disais pas et tu t'en rendais compte que plusieurs mois après? Moi, c'est ce qui se passait pour mes élèves.
Je pense que, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont comme ça, qui sont sous-optimales, disons, si on peut. Mais comme il y a énormément de choses qui sont sous-optimales, c'est un effort de remarquer que ça n'est pas optimal et de vouloir le changer, en fait.
Oui, puis surtout quand t'es dans la position de l'élève, tu te sens pas légitime pour critiquer. Tu te sens pas du tout légitime.
Tu vas pas aller voir Alexandre Dana et lui dire, ouais, je trouve que ton prof, il est pas incroyable.
Exactement. Exactement. Nous, on envoyait pourtant énormément d'emails pour dire aux élèves qu'est-ce que vous pensez des cours, est-ce que ça vous satisfait. Et en fait, on avait très peu de réponses. Les élèves se laissaient porter.
C'est marrant parce que tu dis ça. Je me dis que si sur Live Mentor, il y avait ce problème et que vous avez eu autant de mal à vous en rendre compte dans l'éducation nationale, ça doit être encore beaucoup plus complexe, quoi.
Je pense que malheureusement, effectivement, au collège et au lycée, t'as beaucoup de situations où les bons profs, les profs super motivés ne sont pas accompagnés. C'est très dur d'être prof en France aujourd'hui. T'as pas de budget pour organiser des activités extrascolaires, par exemple, avec les élèves. Il y a aucun endroit où l'élève peut dire « Ah, j'adore ce prof, je suis content, je le remercie publiquement ». Il suffirait d'ajouter un espace public sur le site du lycée avec un livre d'or et des avis. Ça coûterait absolument rien. Et de l'autre côté,
ça ferait plaisir aux profs, en plus.
Et ça ferait plaisir aux profs. Et de l'autre côté, tu as effectivement d'autres profs qui, eux, sont plus motivés dans leur travail, aimeraient faire autre chose, mais d'ailleurs n'ont pas la force de sortir de l'éducation nationale, et sont chaque jour face à une trentaine d'élèves, 40 élèves, sans avoir de la motivation. Donc à partir du moment où on a fait ce constat qu'on n'était pas capable de former 15 000 profs, qu'on ne pouvait pas partager ce niveau qu'on attend d'implication dans un rapport éducatif, on a décidé de passer sur une expérience beaucoup plus contrôlée, d'avoir beaucoup moins de profs, d'avoir que des profs en interne, de faire des formations en ligne et de faire des formations en ligne pour des gens qui ont un projet, des entrepreneurs, des freelances, des indépendants.
De contrôler l'expérience un peu à la Apple où tu vas laisser aucun, tu vas rien laisser au hasard, quoi. Tu crées une expérience Live Mentor de A à Z.
Exactement.
Est-ce que tu peux me parler de la prise de décision, le moment où tu as pris cette décision?
Bah, le moment où j'ai pris la décision, je venais de finaliser une levée de fonds.
Pourquoi tu rigoles?
Bah, parce que je venais de finaliser une levée de fonds sur le premier modèle, donc sur quelque chose de radicalement différent. Mais au moment où j'ai signé les papiers, je me suis dit, je sais pas ce que je suis en train de faire là, je suis en train de recevoir de l'argent pour faire quelque chose que j'ai plus envie de faire. J'ai quand même signé le papier, mais on a pris notre équipe, on a travaillé avec toute l'équipe sur le nouveau modèle, sur la transition, et on s'est dit, en parallèle du site existant, on va faire un test, on va organiser une première formation sur laquelle on va bosser pendant 2 mois sur le programme. Moi, je me suis enfermé pendant 2 mois, j'ai fait le programme d'une formation en marketing, dédié entièrement aux gens qui ont un projet. Je suis entrepreneur, je veux simplement me faire connaître sur Internet, comment est-ce que je fais? Et on a tout organisé en interne. On a tout recréé.
Attends, mais parce que c'est une décision très difficile. Tu signes une levée de fonds pour le premier modèle, tu passes au second modèle. Tu l'as prise toute seule, cette décision? Tout seul, cette décision?
Je l'ai prise avec l'équipe, mais j'ai impulsé. Ouais. J'ai impulsé le mouvement. Et j'ai donné moi-même le cours. J'ai donné moi-même la formation. Ce qui a donné un élan particulier. Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de dire j'ai ce projet, j'ai ce nouveau format éducatif en tête. Écoutez, il va falloir qu'on aille trouver un prof, des assistants pédagogiques. Et une fois qu'on aura trouvé cette équipe enseignante, on pourra lancé l'histoire. Non, je me suis proposé pour le faire.
Mais t'as eu peur alors à ce moment-là ou pas? Est-ce que tu t'es dit je suis peut-être en train d'envoyer Live Mentor dans le mur?
Écoute, au début, j'ai pas eu trop peur. Je me suis isolé pour bosser sur mon programme, pour bosser sur mes cours. Moi, ça fait 10 ans que je ne découvre pas.
Comment ça, tu t'es isolé, t'es parti?
Ah ouais, je suis parti. Je suis parti à la canne océan, si tu veux tout savoir.
Mais je veux tout savoir. Je veux absolument tout savoir. C'est le principe.
Je suis parti à la canne océan, petite ville de Gironde, et je me suis isolé pendant 2 semaines avec mon ordinateur. Et j'ai écrit mon cours, j'ai écrit mon programme, j'ai bossé sur plein de cas pratiques à donner aux élèves. Donc là, j'étais dans ce que j'adore faire. J'aime beaucoup enseigner, donc à ce moment-là, ça me faisait pas peur. Ensuite, on a annoncé...
Attends, mais c'est intéressant parce que un CEO peut se permettre, du coup, de partir 2 semaines, s'enfermer pour réfléchir au futur de la boîte. Parce que j'aurais tendance à penser que c'est difficile à faire quand t'es CEO. Même si tu changes de modèle, le premier modèle continue. Donc pendant que t'étais pas là, j'imagine qu'il y avait encore des cours qui se passaient sur Skype.
Ouais, complètement. Complètement.
Donc alors que t'as dit à ton équipe, écoutez, je pars 2 semaines, comment ça s'est passé ça?
Écoute, je sais pas. Je crois que ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, je leur demanderai en rentrant tout à l'heure au bureau.
C'est un truc que tu fais souvent, partir t'isoler pour réfléchir à des problématiques complexes?
Non, c'est pas quelque chose que je fais souvent. J'aimerais le faire plus souvent. Mais je l'ai fait à cette époque-là parce que c'était exceptionnel. Je devrais sûrement le faire plus souvent. Mais je suis parti 2 semaines. J'ai fait mon programme, j'ai fait mes cours. J'étais très bien. Pour moi, c'était un renouveau. Et ensuite, on a lancé les inscriptions. Et on a voulu présenter le nouveau modèle avec une formation gratuite, un MOOC, qui durait 4 semaines. Il y a 2500 élèves qui sont inscrits. Donc là, j'ai commencé à stresser un petit peu. À ce moment-là, il s'est passé une petite péripétie. Ma grand-mère, que j'aime beaucoup, s'est fait agresser à Paris et bon, elle est quand même partie en vacances. Elle avait des vacances de prévu à Chypre, à 93 ans. Donc elle est partie à Chypre après avoir vécu une petite agression à Paris. Et une fois arrivée à Chypre, elle a eu un contre-coup de cette agression. Elle se sentait pas très bien. Rien de très grave, mais c'était assez inquiétant à distance. Donc elle m'appelle et elle me dit « Je suis à l'hôpital, j'ai plus parti de l'hôtel, je me sens pas très bien. » Et donc moi, j'ai pris un billet d'avion pour aller à Chypre. Et donc je me souviens que
tu venais de partir 2 semaines.
J'étais parti 2 semaines pour préparer mes cours. On avait lancé les inscriptions, il y avait 2500 élèves qui s'étaient inscrits.
Et là, tu devais partir à Chypre parce que ta grand-mère n'allait pas bien.
Voilà, le premier cours de la formation commençait le 8 août. Et moi, je pars à Chypre le 2 pour aller chercher ma grand-mère. Sachant que quand j'arrive à Chypre, je te passe tous les détails, mais ma grand-mère s'était disputée avec son assurance qui ne voulait pas prendre en charge l'hôpital chypriote. Ça coûte assez cher, ces histoires-là. Ni le rapatriement médical, c'est dans un avion un peu...
Heureusement, tu venais de signer une levée de fonds avec Live Mentor.
Non, mais je n'ai pas pensé à prendre l'argent de Live Mentor pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que les policiers chypriotes m'ont arrêté à l'hôpital, m'ont pris mon passeport, et donc je me suis retrouvé sans passeport le 3 août à Chypre avec un cours à donner à 2500 personnes 5 jours plus tard, et j'avais aucune idée de comment faire.
Ils t'ont pris ton passeport parce que vous n'aviez pas d'argent pour payer l'hôpital?
Parce qu'on était en litige avec l'assurance pour payer l'hôpital, oui.
Bonne ambiance.
Donc, à ce moment-là, je ne me sentais pas très bien. Mais je me suis dit, écoute, si tu réussis à rentrer en France et que tu récupères ton passeport, c'est sûr qu'il faut foncer sur ce nouveau format de cours parce que là, ton équipe est vraiment en train d'enseigner et c'est génial, quoi. On est en train de faire quelque chose qui est super sympa. Finalement, heureusement, cette histoire de passeport s'est réglée. Je suis rentré à Paris et donc, première semaine d'août à 20h00, la toute première masterclass de Live Mentor, le tout premier cours en direct a été lancé. Et 5 minutes avant,
tu te sentais comment avant
J'étais en crise cardiaque. Je me rappelle qu'il y avait donc toute l'équipe qui était avec moi et dans la salle, et en fait, je leur ai demandé de sortir parce que j'étais trop stressé, j'avais besoin de me concentrer. J'étais ultra stressé et donc ils sont sortis, ils sont mis dans une autre salle et puis ensuite le cours a commencé. Il y a eu un bug dès le début, c'est que je voyais pas les messages des élèves. Dans les cours Live Mentor, il y a un chat où les élèves peuvent envoyer tous leurs messages. Sauf que lors de ce premier cours, le chat ne fonctionnait pas pour le prof. Le prof n'avait pas le retour.
Donc du coup, j'ai donné mon cours dans le brouillard, en fait, dans le noir.
Un peu comme mon premier Facebook Live.
Oui,
j'avais fait
exactement.
Un Facebook Live Nouvelle École. Tu sais, je suis resté, je sais pas, à 20 minutes, j'étais à Berlin et je ne voyais pas les commentaires sur l'application. Et je me disais, mais merde, les gens s'en foutent, quoi. Ils m'envoient aucun commentaire. Et moi, j'étais là, du coup, je meublais. Oui, alors, je vais vous parler de comment je fais des interviews, etc. Et vraiment, à l'intérieur, tout s'écroulait, quoi, dans mon corps, tu vois. Une espèce de stress inimaginable. Donc, je compatis.
Ouais, c'est compliqué. Mais, malgré ces péripéties, j'ai donné mon cours pendant une heure. Et à la fin du cours, j'ai découvert les messages. Et là, on a sorti le champagne. On était super contents de voir que les élèves avaient aimé l'expérience, qu'ils appréciaient beaucoup le cours en direct. Et c'est une vraie différence dans le monde des formations en ligne. 95% des cours sont des cours enregistrés. Il y a peu de cours en direct. Et nous, on avait eu cette intuition qu'il fallait tout de suite, dans le domaine des formations, ajouter un maximum d'interactions via les cours en direct, via des échanges par mail, par téléphone, en dehors des cours avec les élèves, via des groupes de discussion privés où les élèves peuvent créer des liens entre eux. Donc, la décision de foncer sur ce nouveau modèle a été prise très vite.
C'est un modèle qu'ensuite vous avez appliqué à plein de matières différentes, c'est ça ? En fait, vous avez
5.
Complètement... Et vous avez du coup tué les Skype immédiatement ?
Non, pas immédiatement, ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui on a 5 formations en ligne dédiées aux gens qui ont un projet.
Et en fait toi t'es content parce que ce que tu voulais c'était être prof.
Ouais.
C'est ce qu'on avait dit je crois déjà la dernière fois que t'étais venu, mais on en parle régulièrement, où t'as l'air de dire que tu préfères presque ton travail d'enseignant à ton travail d'entrepreneur quoi.
C'est certain que moi j'aime donner des cours et plus j'en donne plus je suis content. Je pense que ce qui m'a fallu du temps dans l'histoire de Live Mentor, c'est de trouver ce que j'aimais vraiment faire. Au début, je voyais Live Mentor comme un Airbnb, comme un Uber, comme une plateforme de mise en relation, comme un outil technologique au final où tu crées des interactions, mais tu crées pas une pédagogie. Alors que moi, ce que j'ai toujours eu en tête, toutes mes lectures, c'est des bouquins de pédagogie, c'est Montessori, c'est enfin bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a.
Cite-moi quand même 2-3 références.
Bah par exemple, récemment, j'ai beaucoup aimé relire le bouquin d'un mec qui s'appelle John Dewey, qui est sur l'éducation et une pépite. J'ai énormément aimé lire également tout ce qu'a écrit Tim Ferriss sur l'apprentissage. J'ai redécouvert ses premiers écrits sur l'apprentissage, je les trouve vraiment brillants. J'aime beaucoup ce que dit Malcolm Gladwell sur l'apprentissage également. T'as des TEDx évidemment incontournables sur l'éducation. Bien sûr, tout le monde va penser à celui de Ken Robinson où il compare le système scolaire à une usine. Tu fais rentrer des matières premières et puis quand tu sors, t'es un produit fini. Bon. Mais t'en as d'autres. T'as d'autres TEDx qui sont très très pertinents, notamment une prof d'anglais aux États-Unis qui s'appelle Rita Pearson et qui fait ce TEDx sur la relation mentor-élève. En fait, tu peux résumer son intervention par un bon prof, c'est un prof qui crée des relations individuelles avec chaque élève. Et donc moi, ce qui me hantait toujours comme objectif, c'est comment est-ce que tu crées des relations individuelles, personnalisées, en ligne, premièrement, quand tu ne vois pas l'élève, à travers un ordinateur, comment est-ce que tu crées des relations personnalisées? Et deux, comment tu crées des relations personnalisées sur des formations en ligne où y a...
Alors, comment tu fais quand tu as 2500 élèves pour créer des relations personnalisées?
Eh bien, tu crées une expérience...
Parce que là, tu fais un truc à l'échelle.
Ouais. Du coup. Mais premièrement, tu prends le temps de créer des formations. Ça, c'est la première chose. On aurait pu créer 50 formations en un an. On avait les ressources pour le faire. On décide de pas le faire. On décide d'y aller lentement. À cet égard, moi, je me sens... Je veux toujours des très bons échanges avec les fondateurs du Wagon, les frères Payard, qui eux aussi, ils font un seul truc. C'est encore plus extrême que nous. Ils font une seule matière, un seul langage de programmation et ils se concentrent uniquement là-dessus.
Tu les vois, tu discutes souvent avec eux ?
Ouais, on se voit assez souvent.
Les frères Payard qui sont passés sur Nouvelle École, je vous invite à aller écouter Romain et Boris.
Ouais, ils sont passés sur Nouvelle École. Non, ils sont très sympas et c'est vrai qu'on a, on partage cette volonté de faire peu de choses mais de les faire bien. Donc 5 formations, ça c'est très important. Ensuite, on crée une expérience globale, une pédagogie globale. C'est pas juste des cours en direct. Ce qui compte, c'est à la fois le cours en direct, mais c'est également les supports de cours, c'est également les vidéos enregistrées qu'on distribue aux élèves. C'est bien sûr, et peut-être premièrement, les échanges par mail et par téléphone qu'on a avec les élèves. C'est les échanges sur les groupes de discussion privés. C'est tous ces moments d'interaction qui vont créer la relation personnalisée.
Mais alors toi, comment tu fais pour trouver le temps de te concentrer? Tu sais, en ce moment, c'est un concept dont je parle assez souvent dans Nouvelle École, c'est le concept de deep work. Tu sais, les moments de la journée où tu vas à faire ton travail, le travail qui te demande la plus grande concentration et qui fait appel à tes compétences les plus poussées. Si tu dois être sans cesse dans le maintien d'une relation avec tes élèves, est-ce que t'es pas toujours en train de checker Facebook et
Alors, tous mes élèves sont sur des groupes Facebook privés. Mais pour moi, c'est ça du deep work. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être déconcentré quand je passe 3 heures à répondre sur Facebook à des questions d'élèves.
D'accord. Donc, tu prends le temps de donner des bonnes réponses à des questions,
ouais,
d'élèves. Ok.
Absolument. Et on utilise plein de supports. Parfois, on fait des Facebook Live, des vidéos qu'on met en ligne dans les groupes de discussion privés. Parfois, ça va être des réponses par mail aux élèves en one-to-one. Parfois, ça va être des échanges au téléphone. Mais à aucun moment, pour moi, c'est de la déconcentration. C'est ce que t'appelles le deep work.
Et pourquoi c'était maintenant vous vous êtes orienté sur un concept nouveau qui est en fait aider les gens à créer puis à développer leurs projets.
Oui, là aussi, ça, t'as des problématiques d'apprentissage qui sont colossales.
Mais attends, du coup, t'es plus sur l'économie, t'es plus sur les maths, t'es plus sur ces choses-là.
Complètement.
T'as complètement viré, donc ouais. t'es sorti de l'éducation un peu tradie en fait.
Scolaire.
Et t'es passé sur je vais aider chaque personne à créer un projet et à le développer.
Ouais.
Tu penses en fait que chaque personne peut, dans un sens, être entrepreneur et créer et développer un projet?
Oui. Je ne suis pas un gros fan des études et des sondages, mais c'est vrai que quand tu entends qu'un Français sur deux veut lancer son projet, tu t'interroges sur le passage d'une société où la rupture sociale, elle était entre les gens qui ont un travail et les gens qui sont au chômage, à une société où la rupture est entre les gens qui ont un projet et les gens qui n'ont pas de projet.
Pour toi, c'est ça le nouveau paradigme?
Je pense, ouais. Mmh. Je pense. Par contre, ce que je regrette, c'est que la presse soit extrêmement restreinte dans sa définition des projets, de l'entrepreneuriat, des startups.
Donc toi, quand tu dis projet, t'entends pas startup, en fait, forcément.
Exactement. Pas du tout. Live Mentor n'est pas une école pour startup. Je le dis le plus fort possible. Pour les personnes qui veulent créer le prochain Airbnb, le prochain Uber, Live Mentor est pas du tout le bon endroit.
Pourquoi?
Parce qu'on croit pas vraiment dans l'hypercroissance. On croit pas vraiment dans les levées de fonds à 100, 200 millions. On croit pas vraiment dans... dans le 1 million d'utilisateurs comme levier de motivation. Moi, quand j'écoute mes élèves, je vois des gens qui sont à la tête d'associations et qui veulent se faire connaître. Je vois des créateurs de sites e-commerce, des petits sites e-commerce qui vendent des guitares, des bijoux, des parfums. Là, je vois que tu as des bougies. Voilà. Pareil, ça, c'est très fréquent dans mes élèves. Des petits sites e-commerce qui veulent pas devenir Amazon, mais qui veulent pouvoir exister à côté d'Amazon, justement. Des passionnés par une activité très spécifique. Je vois des freelances, beaucoup de freelances. Des designers, des développeurs, des graphistes, des consultants en communication, des coachs, des architectes, des freelances. Je vois des indépendants, des créateurs de restaurants, d'hôtels, de coworking space. Je vois des blogueurs, des youtubeurs, des instagrammeurs. En fait, je vois que des porteurs de projets qui veulent créer ou développer leur communauté, les 100, 500, 1000 premiers fans. Et je vois assez peu d'élèves venir me voir en me disant « Alex, je veux savoir comment recruter 100, 200, 5000 employés ». Je vois très peu d'élèves venir me voir en me disant « Je voudrais passer tous les soirs sur le JT de TF1 ». je vois très peu d'élèves venir me voir en me disant je veux construire un empire industriel et conquérir l'Europe.
Ça, c'est ce que tu t'associes aux startups, du coup.
Exactement.
Et pourquoi tu crois pas, on va ensuite aller parler des projets, pourquoi tu crois pas au modèle des startups à Uber et à Airbnb ? Tu me dis je crois pas forcément en ça.
En fait, je pense pas que ce soit...
Parce que juste avant, tu parlais des médias, tu disais...
Ça m'excite pas énormément la vision d'une société où tu as 20 méga-trusts qui contrôlent tout ce qui se passe dans le monde. Ça m'excite pas beaucoup. Et au final, ça ferait que 20 entrepreneurs.
Ouais.
Ça m'excite beaucoup plus d'imaginer un monde où 1000, 2000, 10 000, 1 million de personnes lancent leur projet à leur échelle et où on est dans un monde où chacun a sa petite activité dont il est l'expert et où les échanges sont multiples.
En fait, ça veut dire... c'est aussi un différentiel de... J'aime pas trop ce mot, mais d'ambition dans un sens. C'est-à-dire que les startups, c'est vraiment le côté... c'est la réponse à l'ambition dévorante, tu sais, à la volonté de, comme tu dis, de construire un empire, de dévorer le monde. C'est ce que critique l'école Basecamp un peu, en fait, dont tu fais
oui,
un peu partie,
mais c'est,
quoi.
Mais complètement, mais c'est pas la même ambition, mais c'est pas une ambition moindre. C'est
non.
pas une ambition moindre que de vouloir se concentrer sur la création de chaussettes pour hommes dans le Rhône et de vouloir distribuer sur Internet ces chaussettes pour hommes.
Et pourquoi il y a des gens qui veulent faire Uber et des gens qui veulent distribuer leurs chaussettes alors ?
Je pense que ceux qui veulent distribuer leurs chaussettes, ce sont des vrais passionnés. C'est ceux que j'aime avoir comme élèves. Ce sont des gens qui sont passionnés de chaussettes. Ils adorent ça. Ils peuvent en parler pendant des heures. De la même manière que moi, jamais je recréerai une boîte, je pense, après Live Mentor. Je suis passionné d'éducation. Je suis pas passionné d'entrepreneuriat. J'ai le sentiment que 90% des créateurs de start-up en France, ont été un peu drogués aux success stories, justement à la Uber, à la Airbnb, ont été dopés à toutes les histoires sur les startups qu'on lit dans la presse, qu'on lit dans Les Échos, French Web, etc. Et ils se sont levés le matin en se disant « Je veux créer une startup » avant même de se dire « Je veux lancer un projet dans tel domaine. »
Ah oui, mais c'est sûr. Moi, là, ça fait vraiment écho à...
Tu te définis socialement comme créateur de start-up. Mais
Ça fait vraiment écho à ce que je pensais. Je me souviens quand je suis parti à San Francisco, donc je venais d'avoir HEC, et là-bas, donc start-up, surtout que c'était en 2014, je crois, 2013, donc vraiment, on était en plein... l'explosion de toutes les grosses start-up. Maintenant, il y a un peu un tout petit retour de bâton qui commence, tu sais, mais alors à l'époque, pas du tout. Et là-bas, vraiment, je me disais, en fait... si tu ne fais pas de start-up, en fait, t'existes même pas. Ta vie ne vaut même pas le coup d'être vécu presque. Tu sais, tellement tout tourne autour de ça. Et quand tu retournes en France, qu'est-ce que t'entends, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu vois sur Facebook, dans les médias, etc. Si tu vois des success stories d'entrepreneurs extrêmement jeunes, qui ont vendu leur société extrêmement cher, et qui sont les nouvelles figures déifiées, en fait. Et toi, tu te dis, mais en fait, il faut que je fasse ça parce que, on te met tellement ce message dans la tête que tu as vraiment l'impression que rien d'autre ne vaut le coup. Et je suis à peu près de ton avis. Moi, je me souviens vraiment m'être dit, en fait, j'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire, j'ai réfléchi à ce que je voulais être, en fait. Tu vois, tu confonds ce que tu aimerais être, le fantasme, et ce que tu aimerais faire, en fait, au quotidien, tous les jours. Donc c'était juste pour apporter ma petite... Parce que je pense que c'est vrai, en fait, cette histoire. Je vois vraiment ça, ouais.
Ouais, c'est... L'intoxication au message.
En plus, il y a toute une industrie qui vit de ça, donc que ce soit l'industrie des les ventures capitalistes, en fait, se nourrissent de il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent créer des nouvelles startups pour lever des fonds et potentiellement faire des exits. Enfin, je veux dire, c'est quand même une chaîne, quoi, maintenant. D'ailleurs, le Y Combinator, l'accélérateur de startups en Californie, c'est ni plus ni moins qu'une usine à produire des startups, en fait. Et ça fait des batchs, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les 6 mois ou tous les ans, tous les 3 mois, je sais plus comment ça marche, tu as 10, 15, 20 nouvelles startups qui sont validées par le YC, dans lesquelles les gens investissent, et ça fait un portefeuille d'investissement pour les investisseurs.
Moi, je vais te raconter une histoire. Quand je suis passé par différents incubateurs avec Live Mentor, on s'est fait également refuser de certains incubateurs. Et je me rappelle d'un Au début, moi, j'allais à tous les événements d'entrepreneurs, mais tous. Je me disais que c'était super important pour réussir. Il fallait faire tous les événements. Donc, j'avais pris le calendrier des événements sur Paris. Le lundi,
j'allais à des meet-ups.
Le lundi, j'avais l'apéro entrepreneur. Le mardi, j'avais le Start in Paris. Le mercredi, j'avais l'événement French Web. Toute ma semaine était remplie. Ça m'apportait pas grand-chose. Je faisais pas de rencontres intéressantes. Et je me rappelle d'un événement où je parle à quelqu'un qui vient de présenter un projet et j'ai l'impression qu'il est super passionné par son projet. Et je lui demande alors, ça a l'air génial, tu te vois bosser là-dessus pendant 10 ans? Il me dit, ah non, pas du tout. Il y a 3 mois, j'étais sur autre chose. Et si dans 2 mois, ça marche pas, je passe sur autre chose également. Et à ce moment-là, moi, je me suis senti vraiment... Je comprenais pas ce discours. J'étais en décalage total avec cette approche-là, parce que on a prolongé la discussion, et il m'a expliqué que c'était l'approche start-up américaine, l'approche agile, l'approche lean.
L'itération.
Faut pas s'attacher à l'idée, faut passer d'un truc à l'autre, on s'en fout, le seul truc qui compte, c'est de trouver quelque chose où il y a de la croissance, le sujet sur lequel tu bosses, c'est pas la peine d'être passionné, il y a un côté assez froid, assez scientifique.
Il y a un côté très business, quoi.
Et que t'es très business, il me dit je veux juste trouver le truc sur lequel je vais avoir un peu de traction, c'est-à-dire le premier décollage des chiffres, et après je vais lever des fonds. Et moi, c'est vrai que j'ai une approche très paysanne, très artisanale de l'entrepreneuriat, où j'aime bien l'artisan. Les modèles que j'aime bien d'entrepreneurs, c'est des types qui sont passionnés par leur sujet et qui peuvent bosser dessus pendant 10 ans, 20 ans sans se lasser.
Est-ce que c'est parce qu'il y a une... poursuivez peut-être pas les mêmes buts aussi?
Sûrement.
Toi, qu'est-ce que tu poursuis à travers Live Mentor, l'entrepreneuriat?
Aujourd'hui, mon but, c'est de créer une pédagogie la plus efficace pour des élèves qui ont un projet.
Donc, tu t'en fous de passer dans le Forbes 30 Under 30?
Ah oui, complètement. Oui, vraiment.
C'est jamais un truc qui t'a affecté, ça? Est-ce qu'il est déjà arrivé que tu doutes de ta position en voyant des amis d'ailleurs qui certains sont assez proches de toi qui vont bien utiliser les médias, ce genre de choses?
Ah bon, passer dans les médias, si ça peut aider ton projet, il faut le faire, bien sûr. Ce que j'ai par contre compris,
non, je dis ça, je dis pas ça pour, c'est pas une critique de ceux qui passent dans les médias, c'est plus que il y a un côté assez arbitraire à quelles bonnes histoires vont passer dans les médias, quels bons profils vont être retenus, qui est pas fort. Et parfois, je pense, en tout cas, moi, c'est déjà des choses qui m'ont frustré à une époque, tu vois.
Il se trouve que par des circonstances que je n'explique pas, je suis passé pas mal à la télé au début de Live Mentor. Je passais sur TF1, je passais sur France 2.
Parce que tu voulais faire une start-up au début de Live Mentor. C'est peut-être pour ça.
Sûrement.
Tu faisais Uber de l'éducation.
Mais je me suis rendu compte que je passais à la télé à l'époque où le projet ne marchait pas du tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais en fait, les gens qui passent à la télé, c'est pas forcément que leur projet fonctionne. C'est juste que ils ont eu de la chance à un moment donné, ou qu'il y a un concours de circonstances que tu n'expliques pas, ou que tu as un réseau. Donc déjà, j'ai vite compris que passer à la télé ou passer dans les médias, c'était pas...
Oui, mais tu l'as compris parce que t'es passé à la télé. Comment est-ce qu'on fait quand on ne passe pas à la télé pour s'extirper de ces poursuites qui me paraissent à moi un peu vaines? Je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un de très gentil qui est venu m'envoyer un message hier et qui m'a dit... il monte une boîte et il me dit « Tu sais qu'il y a plein d'entrepreneurs comme moi qui rêvent de passer sur TechCrunch ou sur Nouvelle École. » J'étais là, c'est gentil, tu vois, mais j'avais envie de dire, je suis pas sûr que ce soit un bon objectif, tu vois, parce que passer sur TechCrunch, si t'as une bonne adresse email et une bonne histoire, je pense que tu peux y passer. Et passer sur Nouvelle École, si t'es mon pote, c'est con. mais tu vois, genre, c'est difficile de, on a quand même tous un peu envie de briller, tu vois. Et en fait, pourtant, la poursuite de ce qui brille et du prestige n'est pas a priori la bonne poursuite pour monter un projet qui a du sens et qui te parle et qui te rend heureux.
Je pense qu'on peut avoir deux idées sur ce thème. La première, c'est d'expliquer la réalité d'un passage télé, par exemple. Alors, Nouvelle École, c'est sympa, il y a des bougies à la banane et du thé à la vanille.
C'est à la vanille aussi.
C'est-à-dire que passer sur BFM, c'est que tu as rendez-vous à 7h du matin à Boulogne avec Stéphane Soumier.
Il est sympa, Stéphane Soumier, je trouve qu'il a l'air sympa, ce type.
Ça reste entre nous, j'espère qu'il nous écoute pas, mais il est complètement fou.
complètement fou, ce mec, genre, il a le cœur qui pulse à 3000 à l'heure. Et,
d'accord.
Je sais pas, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, t'as l'impression qu'il est prêt pour aller en boîte. Moi, il m'a souhaité la bienvenue, donc à 7h du matin, dans la grande tour à Boulogne. Alors, génial, comment tu t'appelles déjà? Donc déjà, bah, premier constat, le type ne connaît pas ton nom. C'est pas sa faute, c'est que le système est conçu pour créer un maximum de contenu d'une qualité du coup logiquement moyenne tout au long de la journée. Voilà, donc toute la journée, il y a des types comme toi ou moi qui débarquons dans la tour de BFM. Coucou, est-ce que c'est possible de faire une interview? On te maquille en 30 secondes, quelqu'un lit des questions sans être jamais allé sur ton site, et puis après c'est fini, au revoir, et puis tu repars chez toi. Moi, je me suis jamais senti roi du monde en sortant d'une interview, donc faut vraiment
désacraliser
le sujet. Ensuite, oui, on veut tous briller, ça, je dis pas l'inverse, mais justement tu vas briller si tu te concentres sur ta communauté, si tu te concentres sur avoir le meilleur service, le meilleur produit pour les 20, 50, 100 premières personnes qui vont s'intéresser à toi et qui vont te dire « mais merci, c'est génial, c'est super ». Moi, ce qui m'a donné un nouvel élan dans l'histoire de LiveMentor, c'est vraiment nos premiers élèves, ces 50 premiers entrepreneurs que je pense que je peux tous donner leur prénom. Et tout, je peux donner à tous leurs projets.
En direct, t'as envie de te défier.
Je sais que t'as envie de... un petit peu, mais je pourrais vraiment le faire. Je crois que je les connais tous par cœur.
T'allais pas continuer là?
Ah, tu veux que je commence?
Non, non. T'allais me faire la liste des élèves. Non, je voulais te dire, tu dis que...
C'est pour moi, c'est les deux éléments. C'est un, il faut désacraliser...
Merci de m'avoir sauvé.
Désacraliser la médiatisation. Et deux, si tu veux briller, si tu veux avoir de la reconnaissance, mais concentre-toi sur ce que tu fais, concentre-toi sur ton activité et essaye de briller auprès de ces personnes-là. Et c'est pas grave de ne pas avoir le 20h de TF1 et d'avoir tous tes amis qui vont te mettre un message sur ton Facebook. C'est génial, c'est exceptionnel, you're a rock star. Oui.
Donc ça, en fait, c'est ce que vous faites beaucoup, vous démystifiez beaucoup, même dans vos formations. Vous prenez un malin plaisir en fait à aller à contre-courant de ce qui se fait en général.
Ouais.
Parce qu'il y a trop de bruit, vous essayez de refaire comme le titre du blog des types de Basecamp, c'est ça, signal versus noise, tu sais, le signal à l'inverse du bruit, quoi. C'est ce que vous essayez de faire aussi?
C'est ce qu'on essaye de faire. On donne que des compétences concrètes activables. Par exemple, donc on délivre pas de diplôme.
Pourquoi?
Parce que ça sert à rien pour nos élèves. Ça sert absolument à rien.
Parce que Open Classrooms, par exemple, ils donnent un diplôme pour permettre aux gens ensuite de se faire employer.
Oui, mais parce que eux, leur objectif, c'est que les gens trouvent un boulot. Mmh. Moi, mon objectif, c'est d'aider des gens qui ont un projet à avancer dans leur projet.
Donc en effet, ils n'ont pas besoin de diplôme pour lancer leur projet.
Voilà, c'est pas du tout la même pédagogie. Donc ça, c'est une première chose, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour les élèves, à savoir des compétences concrètes et utiles. Deuxième problématique, comment aider efficacement des élèves qui sont porteurs de projets et qui donc, par définition, n'ont pas le même horizon de temps. Dans une formation classique, tu prends tous les élèves pendant 2 semaines, 2 mois, 1 an, mais c'est le même horizon de temps pour tout le monde. Et à la fin, tu fais passer un test, les élèves passent le test, 80% des élèves sont validés, 20% sont pas validés, point final. Tu te rends bien compte que quand tu embarques 20, 50, 200, 1000 porteurs de projets, t'en as certains qui sont encore employés, qui n'ont pas encore lancé leur projet, tu en as d'autres qui viennent de se lancer, qui sont dans le doute total, tu en as encore d'autres qui se sont déjà lancés, qui ont un début d'activité, tu en as certains, comme j'ai chez moi, qui ont déjà un truc qui tourne assez bien avec 20 employés, 30 employés. Chacun n'est pas au même stade sur la ligne de départ. Et chacun ne sera pas au même stade à la ligne d'arrivée. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un accès à vie au cours. Et un accès à la vie, à la communauté, et même un accès à vie, ce qui était complètement dingue quand on y repense, au coaching. C'est-à-dire qu'un élève, aujourd'hui, même s'il a suivi une formation il y a 6 mois, il peut encore nous contacter.
Et c'est ça qui fait la différence?
Je pense que c'est ce qui fait la différence.
Il y a un côté, je sais pas comment on dit en français, c'est customer care. C'est comme quand t'achètes un casque de bonne qualité et qu'on te dit qu'il est garanti la vie. Et quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir le rechanger. Non, mais tu vois, ça fait, non, mais ça, je compare des choses qui ne sont pas comparables, mais c'est ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, en fait, c'est tous les modèles où on, en fait, t'envoies un signal en disant on est en abondance de choses à donner, tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu donnes l'impression que t'es un peu avare de choses à donner, ça envoie pas le bon signal et ça donne pas confiance aux gens et c'est toute une dynamique, j'ai le sentiment, tu sais.
Mais tu connais cette image où tu vois un singe, un éléphant, un pingouin, un rat, et t'as un maître d'école qui s'adresse à tous ces animaux et qui leur dit: pour vous départager, vous avez tous le même examen, c'est fair, c'est juste, c'est équitable, vous allez tous monter à l'arbre. Donc évidemment, ça n'est absolument pas juste, absolument pas équitable, parce que le singe peut monter à l'arbre, alors que l'éléphant va écraser l'arbre et que le pingouin ne va pas réussir à monter. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour accompagner des élèves qui sont à la fois pingouins, singes, éléphants et rats? J'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple du rat. Et pour moi, ça passe par l'accompagnement, ça passe par les échanges entre élèves, ça passe par l'accès à vie au cours, ça passe par constamment mettre à jour le contenu des cours. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai une équipe de profs en interne pour pouvoir avoir la maîtrise sur le contenu et les renouveler sans cesse. Moi, je suis pas content la qualité des cours sur Live Mentor. Je suis jamais content. Genre, je pense qu'il y a encore énormément de choses à améliorer.
Tu fais pas du passive income, quoi. Tu lâches pas ton cours et ensuite tu passes à l'autre pour pouvoir faire plus de...
Non. Ça, effectivement, ce que tu mentionnes.
C'est de ça dont je parle quand je parle d'abondance. C'est d'envoyer le signal qu'en fait, tu vas toujours donner plus parce que t'es pas en manque de choses à donner. C'est pas très clair ce que je dis, mais...
Non, mais ce que tu mentionnes, le passive income, ça évoque une réalité du monde des formations où t'as beaucoup de formateurs indépendants qui enregistrent une série de vidéos et qui ensuite la distribuent et tu te retrouves à avoir des cours qui ont été tournés il y a 10 ans et qui sont plus à jour.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée un vrai lien, en fait. Ça crée une vraie relation de confiance quand tu dis aux gens, on va pas vous lâcher, tu vois. C'est un peu la même relation de confiance que tu, ou en tout cas la confiance que tu dégages quand, mettons, t'es freelance ou entrepreneur et tu te vends. Et tu te vends, tu te vends cher et surtout tu montres qu'en fait t'as pas besoin de ce deal. En fait, vu que tu montres que t'as pas besoin de ce deal parce que tu survis quand même, les gens ont envie de travailler avec toi. Et en fait, quand tu dégages ce sentiment d'abondance, tu crées un lien de confiance dans un sens ou dans l'autre. C'est ça dont je voulais parler, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que Live Mentor, il y a un côté familial presque dans la manière dont c'est géré, quand tu parles des journées que tu passes à discuter ou à répondre aux questions de tes élèves, le fait qu'on ait accès à un coach à vie, à la formation à vie, que la formation soit updatée, il y a un côté, vous êtes dans la famille maintenant, et vu que vous êtes dans la famille, on va prendre soin de vous tout le temps. C'est pas pour faire la promo de Live Mentor, hein, mais j'essaie de décrypter ce truc, parce que je pense que c'est très important, parce que souvent, moi j'ai déjà souvent été discuté avec des gens qui disent, tu sais, il y a un côté... under promise, over deliver, tu sais, c'est le truc qu'on dit beaucoup. Donc tu vas faire attention à ce que tu promets pour pas te rater, et ensuite tu vas évidemment fournir plus que ce que t'avais promis parce que c'est ce dont t'es capable. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, parce que ça, je pense que c'est bien de promettre ce que tu peux, donc de promettre à fond et de donner à fond derrière, tu vois, de pas être dans la peur comme si on n'allait pas réussir à remplir sa promesse.
Non, mais moi je trouve ça, c'est super sympa ce que tu dis, et j'espère vraiment que cette notion de famille, on va pouvoir la garder le plus longtemps possible, parce que je suis très conscient du danger. Le danger, c'est de pas réussir à le garder avec l'augmentation du nombre d'élèves. Quand on avait uniquement 100 élèves en formation avancée, c'était facile, c'était à notre portée d'avoir une communauté, un esprit très familial. Aujourd'hui, on a 2500. On s'est rendu compte qu'il fallait constamment investir dans nos process, dans nos cours, dans la qualité des formations, dans la formation interne. Ça, c'est un sujet qui est clé chez Live Mentor. C'est la formation des profs. Parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé des élèves. Mais moi, le principal défi de ma boîte, c'est d'avoir une équipe pédagogique qui se forme constamment, d'avoir une équipe de passionnés qui mettent tout le temps à jour leurs compétences, qui adorent vraiment les élèves et qui sont capables de s'intéresser à des cas extrêmement différents. Parce que, encore une fois, comme on a créé un format pédagogique où il n'y a pas de test standardisé.
Comment tu mesures le succès, du coup?
tu mesures le succès via les retours que te font les élèves sur la progression de leur projet, mais tu vas pas le mesurer avec un test où tu dis vous devez tous répondre à ces 10 questions et je vous note là-dessus.
Mais tu peux pas dire si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, t'as passé le test, quoi.
Non, ça fonctionne pas non plus parce que certains élèves n'ont pas pour objectif d'augmenter leur chiffre d'affaires et c'est très bien comme ça. Certains élèves, ils ont comme objectif de simplement mieux faire leur travail. D'autres élèves, ils ont comme objectif de moins travailler, de réduire leur volume horaire pour passer plus de temps avec leur famille, avec leurs amis. J'ai certains élèves qui ont pour objectif de pouvoir faire une activité pas forcément plus rémunératrice, mais de pouvoir la faire depuis n'importe où, de pouvoir commencer à voyager, d'être nomade.
Donc tu vas mesurer leur satisfaction au fil du temps, c'est ça ? Tu vas essayer de créer des systèmes pour aller les voir tous les, je sais pas, 2-3 mois et voir comment ça se passe. Et
ouais.
Ça doit être compliqué à processer tout ça.
C'est super complexe et...
C'est vraiment l'éducation à la carte, quoi. Genre chaque personne a son cours, son évaluation, sa métrique de succès un peu.
Ben, je vais te dire, par exemple, dans la journée que j'ai eue aujourd'hui, à 9h du matin, j'ai parlé avec une sophrologue, donc une fille qui veut se lancer en tant que sophrologue, qui est au tout début de son activité.
Attends, pardon, mais c'est quoi sophrologue ? J'oublie toujours.
Alors, c'est une très bonne question. C'est partie des médecines alternatives. Et en tant que sophrologue, tu es principalement sollicité pour la gestion de stress. Elle, parmi ses patientes, elle a, par exemple, des personnes qui ont une phobie de la voiture. Ils ont une phobie des accidents de la route. Donc, du coup, elle les aide à comprendre d'où vient cette peur et comment les surmonter.
Okay.
Donc là, je m'adresse à une élève dont le but, c'est de se stabiliser en tant que sophrologue. Et je m'adresse en fait à une élève qui s'inscrit initialement pour savoir comment écrire sa newsletter. Mais en fait, tout ce qu'elle me dit, c'est « je me sens pas légitime, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, j'ai été pendant 10 ans sur des activités qui avaient rien à voir, j'ai ultra peur quand une patiente vient me voir. »
C'est fréquent ça, le syndrome de l'imposteur chez tes élèves, non ?
C'est fréquent.
Je parle pas de tes élèves en particulier, hein, mais si c'est des gens qui lancent des projets...
Ouais, c'est fréquent. C'est fréquent. Donc, je commence avec cette sophrologue. Ensuite, je passe à quelqu'un qui a un site e-commerce qui marche bien, mais il vient de se faire pirater, il s'est fait attaquer par un concurrent. Trois heures après, je passe sur deux élèves, deux filles, qui, elles, sont en train de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule et qui veulent savoir comment fédérer leur communauté parce qu'elles se rendent compte que, en fait, Ulule va pas du tout leur apporter les soutiens promis et qu'il va falloir qu'elles se bougent, elles, pour réussir leur campagne. Donc, de la sophrologue à celui qui se fait attaquer par un de ses concurrents aux filles qui veulent faire leur campagne sans voir participatif, t'es bien conscient que je peux pas répéter le même cours. Ça n'a aucun sens. Ça marcherait pas du tout. Donc, il faut avoir une équipe pédagogique qui s'intéresse énormément, qui est passionnée par ça, qui est passionnée par chaque projet et qui transmet des conseils personnalisés, un soutien, qui va donner des clés pour trouver d'autres ressources sur Internet. Moi, je crois beaucoup au rôle du prof en tant que guide et non pas en tant que maître omniscient qui sait tout.
Tu as montré que les profs sont aussi des gens qui apprennent, c'est ça ?
Ah, mais complètement, mais absolument.
Ça, c'est un truc que je disais sur le site du Zéro. Ça m'avait beaucoup marqué quand j'avais utilisé le site du Zéro pour la première fois, donc il y a 10 ans, je pense. J'avais fait un petit site pour mon groupe de musique. Et en fait, tu disais donc, c'était très basique, hein, des cours en ligne, écrits. Et la seule vraie différence, c'est que c'était marrant. Et que non seulement c'était marrant, mais qu'en plus t'avais un chat, je crois que t'avais un chat, ou je sais plus, mais tu voyais vraiment que les profs se prenaient pas trop au sérieux et continuaient à apprendre. Et de toute façon, en développement web, tu peux jamais avoir fini d'apprendre. C'est une compétence, c'est pas possible, quoi. C'est ce qui d'ailleurs, te dit en passant, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre dans son CV de développeur des compétences en pourcentage, tu sais. Il y a des gens qui mettent « je connais 50% de HTML, 70% de Python », parce qu'en fait, ça n'a pas de sens.
Ça ne marche pas.
Bref,
ça marche pas.
Parenthèse.
Mais bien sûr qu'en tant qu'élève, tu vas être motivé pour des raisons très différentes. Tu vas être motivé par la matière, tu peux être motivé par... ton urgence de faire décoller ton projet. Tu peux être motivé par tes objectifs, mais tu vas surtout être motivé par la relation que tu as avec le prof. Et je sais que, par exemple, un de mes profs, Jesse, qui est adoré par les élèves, il est en partie adoré parce que vendredi dernier, à 19h30, là où tout le monde a arrêté de bosser, lui, il va arriver sur un groupe d'élèves, il va mettre une vidéo à 19h30 et les élèves hallucinent et répondent « Attends, mais t'es pas parti faire la fête et en plus tu nous donnes du travail, tu nous fais entre guillemets culpabiliser d'être en train de pas bosser. » Donc ça c'est également très important. Je pense que t'as beaucoup de profs qui se sentent pas légitimes en tant que prof et donc du coup ils vont mettre une distance très forte avec les élèves. Mais en mettant cette distance
pour se protéger,
mais en mettant cette distance super forte, ils cassent toute motivation chez l'élève. Alors que t'as énormément d'élèves. Moi, par exemple, c'était mon cas avec les mathématiques. J'étais nul en maths, mais tu peux pas imaginer à quel point j'étais nul. Enfin, c'était une catastrophe.
Ah, t'as quand même eu le SCP, tu t'es pas dit si nul.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu le SCP. Mais au début, j'étais vraiment nul. Au collège, au lycée, j'étais complètement nul. J'ai eu des traumatismes. Par exemple, on m'avait demandé de passer devant toute la salle de classe pour dessiner un triangle ou un rond, je sais plus. Enfin. Il fallait faire un truc là. Et il fallait prendre une règle. Et j'étais tellement stressé par les maths et par les équations, je savais tellement pas ce que je racontais. Je me rappelle que j'avais quasiment cassé avec la règle la lampe qui était au-dessus du tableau. Donc j'étais très mauvais. Jusqu'à ce que.
Ah oui, si, oui. C'est là, on n'est même pas sur les maths, quoi. On est sur.
Oui, on est sur la gestuelle et le comportemental, quoi. Vraiment...
Jusqu'à ce que
je rencontre une prof. Qui m'a complètement transformé, que j'ai adoré, qui s'appelle Mira Rubinstein, et qui était ma prof de maths avant que je passe mes concours en école de commerce, justement. Elle fait 1m60. Elle avait, à l'époque, plus de 70 ans. Elle a un parcours complètement fou. Elle a vécu dans 4 pays différents. Elle est passionnée par son sujet, les maths. Et elle te dit... Au début de l'année.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tu vas faire exactement ce que je dis et ça va bien se passer. Moi, j'ai adoré ça. Et je voulais absolument lui faire plaisir.
Donc, en fait, pour ça, les profs doivent être un peu des psys aussi, dans un sens.
Complètement. Bon, je pourrais te parler de ma théorie sur le prof qui est à la fois grand frère, psy et amoureux, mais juste pour finir sur cette prof-là, moi, qui aimais pas du tout les maths, je me suis mis à bosser les maths et finalement à plutôt bien aimer les maths parce que, surtout, j'adorais cette prof et que je voulais lui montrer que j'allais être impliqué et sérieux dans mon apprentissage.
Donc, tu veux dire que ces profs qui mettent une distance... En fait, sont en train de faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Oui.
Peut-être parce que aussi,
sachant que
on les a peut-être pas formés à être psy justement et grand frère et prof. On les a peut-être formés uniquement à être prof.
Bon, on te forme pas du tout. Surtout, la vérité, c'est que les profs sont pas du tout formés. C'est une horreur. C'est un scandale. Si un jour t'as un ministre de l'Éducation nationale sur l'école, faut l'engueuler à mort. Hein. Enfin, tu m'appelles ou t'appelles Romain Paillard du wagon et je pense que on lui gueulera dessus parce que c'est pas la faute des profs, le niveau de l'enseignement en France. Enfin, tu sais que pour être prof en primaire, par exemple, tu n'as plus aucune formation. C'est-à-dire que tu suis des cours théoriques, tu passes un examen d'abord écrit, ensuite tu passes un oral, et ensuite on te bombarde dans une salle de classe. Et donc t'es là, dans une salle de classe, face à 30 types qui ont 5 ans, 6 ans, ça peut être très intimidant, extrêmement intimidant. Enfin, moi, par exemple, je pense que je serais incapable de donner des cours à des élèves en primaire, au collège. Je pense que j'ai énormément de respect pour les profs qui ont des élèves aussi jeunes. Je préfère mes sophrologues, créateurs de sites e-commerce et lanceurs de campagne de financement participatif. Et donc voilà, t'es bombardé là et t'es pas formé. Donc oui, tu peux pas être le grand frère, tu peux pas être le psy et tu peux pas être le charismatique, l'amoureux.
Pas comme toi, quoi.
Moi, ça fait... Moi, j'ai pas eu de formation pour être prof non plus. J'ai appris sur le tas. Je demande à la fin de tous mes cours aux élèves si ça leur a plu. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Je pense que j'ai toujours peur que le cours soit pas assez bon. J'ai toujours peur que l'élève ait pas compris quelque chose et qu'il ose pas le dire.
Toi, t'as un syndrome de l'imposteur ou pas du tout?
Non, pas sur l'enseignement. Je sais que mes élèves apprécient mes cours. Mais Internet m'a aidé, je pense, beaucoup parce que sur Internet, tu as un retour direct. Et du coup, bah, quand tu vois des élèves qui, sur Twitter, te remercient, c'est super. Ça te donne énormément confiance en toi et ça te permet de t'améliorer.
Et alors, comment vous allez aider un porteur de projet? Parce que c'est quand même le cœur de ton nouveau business maintenant. Et en quoi est-ce qu'ils ont besoin de live mentor, en fait? Mettons que je la pose comme ça, la question, assez naïvement, pour qu'on puisse y répondre. Et on va prendre un exemple. Je propose qu'on fasse un cas pratique. Parce que figure-toi que je suis allé chez le coiffeur il y a 3 jours et que c'est une catastrophe. C'est pour ça que je porte un bonnet souvent. Et ce qui me fascine avec le coiffeur, c'est qu'en fait, tu n'as jamais deux fois la même expérience. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec les salons de coiffure. En tout cas, avec le métier de coiffeur, quoi. Je pense que tu peux, si les gens écoutent, il y a un business à faire là-dedans parce que j'ai jamais réussi à trouver un coiffeur qui fasse deux fois la même expérience. Et alors, à chaque fois, j'ai un truc différent et c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Un coup, j'ai quelqu'un de super bon qui est en forme et qui fait un truc génial. Et l'autre coup, j'ai quelqu'un qui s'en fout complètement et qui va me toucher mollement les cheveux avec des ciseaux. Et à la fin, je ressors et je me cache pendant 2 semaines jusqu'à ce que ça repousse, tu vois.
J'ai un coiffeur, moi, Martin, justement, là, qui est en formation, mais il est à Lille. Alors, je sais pas si tu es prêt à.
Ouais, je sais pas si je vais faire les allers-retours en TGV. mais donc, mettons que moi, je me dise, bon, bah voilà, j'ai appris à couper les cheveux. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est un truc qui me passionne. Je pense que, peut-être qu'en plus, c'est un sujet qui, à mon avis, est très complexe et profond et qui se prête bien à cet exercice-là. Pourquoi je vais aller voir Live Mentor, en fait? En quoi ça peut m'aider?
Alors, faut que tu viennes d'abord si tu ressens le besoin d'être aidé.
Ouais.
L'élève dont je te parle, là, Martin, qui est coiffeur, lui, il est venu parce qu'il avait peu de personnes qui venaient dans son salon de coiffure. Les peu de personnes qui venaient étaient super contents, mais il en avait très peu. Il savait pas comment faire pour avoir plus de personnes dans son salon de coiffure. Il est situé en bordure de la ville, donc pas un endroit où il y a naturellement beaucoup de passages. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On l'a d'abord beaucoup interrogé. Faut pas croire que nous on a une réponse ultime sur tiens, fais ça et ton projet va exploser.
Ah, c'est intéressant parce que pour le coup sur Internet, il y a beaucoup de
méthode miracle pour réussir, etc. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est clair. Non, bah nous on pose des questions d'abord. On pose beaucoup de questions. Pourquoi tu fais ce projet? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe?
Donc tu commences par pourquoi tu fais ce projet.
Ouais.
C'est intéressant ça, tu commences toujours par ça.
Tout le temps, pourquoi tu fais ce projet? Ensuite, on a un premier cours qu'on donne quasiment à tous les élèves, qui est un cours sur ce qu'on appelle le persona. Donc le persona, c'est...
Alors attends.
Ouais.
En fait, je suis désolé, j'interromps beaucoup dans Nouvelle École, mais c'est un peu la marque de fabrique du podcast, alors.
Vas-y.
Pourquoi tu commences par pourquoi tu fais ce projet? Est-ce que ça arrive que tu demandes à des gens pourquoi tu fais ce projet et qu'ils ne sachent pas te répondre?
Non.
Non?
Non, ils savent toujours répondre à cette question.
Parce qu'en fait, t'as que des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font qui viennent te voir, peut-être.
Je pense que quand tu as un projet, tu sais toujours pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Ça peut changer, ça peut évoluer. La réponse change peut-être chaque jour. Mais chaque jour, il y a une réponse.
Je sais pas, hein, est-ce qu'on fait pas beaucoup de storytelling a posteriori? Je me souviens d'avoir discuté avec Boris du Wagon, qui me disait que les gens lui demandaient toujours... c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision, tu sais? Et au bout d'un moment, ils sont sortis une vision donnée aux esprits créatifs, un bagage technique, un savoir technique, etc. Mais je crois que quand il a commencé, il avait juste envie de donner des cours de code ou remarque, c'est peut-être ça son
mais
pourquoi en fait.
Mais c'était déjà une raison.
T'as raison.
Effectivement, la raison, elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins affirmée, mais il y a toujours une raison.
Non, parce que t'as l'impression que tu dois débarquer en disant I want to revolutionize the, tu vois.
Non, surtout pas. Ah non, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on pose la question. On pose simplement la question parce que à partir de cette motivation, qui peut être un embryon de motivation, ou une motivation très affirmée, on va pouvoir construire plein de choses. On va pouvoir déjà expliquer aux personnes de ta communauté, de ta future communauté, bah, cette motivation, cet embryon de motivation. Et ça fait toute la différence au final. Rien que dire...
Pourquoi tu vas expliquer à sa communauté pourquoi il fait ça.
Exactement.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire Nouvelle École en faisant juste des interviews...
Ouais. Toi, tu dis, je veux des gens qui je veux montrer aux gens qu'on peut sortir des sentiers battus.
D'accord. Tu vas commencer par ça.
Et ça fait toute la différence.
Parce que ça crée une raison pour les gens de se rassembler autour de ce projet, c'est ça ?
Même pas, ça montre juste que tu fais ce truc-là pour une raison. Forte ou pas forte, mais t'as une raison.
Donc tu... Là,
pourquoi est-ce
les
que
gens
RMC...
qui écoutent et qui portent
pourquoi
des projets devraient...
Pourquoi est-ce que RMC et RMC ? T'en sais rien, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est pour ça que globalement, RMC, on s'en fout. Parce qu'on sait pas pourquoi ils font leur métier.
Ouais, un peu comme les...
Et TF1, c'est encore pire. TF1, la seule chose qu'on sait, c'est pour vendre le temps de cerveau disponible. Donc tu vois, c'est...
C'est un peu, moi, ça me rappelle les sites officiels de banques et de cabinets de conseil où, en fait, quand tu fais les forums dans les grandes écoles, on dit, alors, apprends bien beaucoup d'infos sur les banques parce qu'on va te demander ce qui la différencie de d'autres. C'est la question la plus dure du monde parce qu'en fait, il n'y a rien qui les différencie. Rien du tout. Mais vraiment, zéro. Les pages sont exactement les mêmes. Et t'appelles tous tes potes. T'as fait un stage chez BCG. Tu peux me dire pourquoi c'est différent? Et tu dis, ouais, alors nous, on est un peu plus... on est un peu plus relax, tu vois. On est un peu plus familial. Tu vas appeler McKinsey. Il va te dire, ouais, alors nous... Je pense qu'on est un peu plus familial que BCG, tu vois. Et tu te dis, mais c'est un enfer, ce truc.
Mais oui, mais parce que c'est devenu tellement gros, c'est tellement des machines qu'il n'y a plus d'histoire. Alors que quand t'es un porteur de projet, que t'es seul ou à deux ou à trois, bah c'est très facile d'aller trouver une histoire. C'est parce que c'est ton histoire, elle existe, elle est là. Moi, mon élève coiffeur, la première raison qu'il nous a donnée, c'est j'adore tester de nouvelles coiffures auprès de mes clients. J'adore quand quelqu'un vient et me dit c'est pas du tout comment je veux être coiffé. J'ai jamais aimé ma coiffure.
Ah, je rêve de rencontrer ton mec. Il veut pas monter un salon de coiffure à Paris.
Va à Lille. Je t'enverrai sa page Facebook. Il fait des trucs assez exceptionnels.
Je rêve d'un type qui me coupe les cheveux ou d'une femme, hein, peu importe, sans que je lui demande parce que je ne sais pas. Je n'ai jamais eu une bonne coupe de cheveux. Oui. Je suis par défaut depuis le début.
Mais ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il te met un bandeau sur les yeux. Il demande à des potes...
À la fin, t'es chauve, tu sais.
Non, mais il demande à un pote à lui de venir de temps en temps avec son iPhone pour filmer la séance de coiffure. Lui, il commente pendant qu'il est en train de coiffer. Il met la vidéo sur sa page Facebook. Et il n'y a pas besoin de plus. Ouais, et on a bossé sur ça pendant 3-4 mois. Il a eu les résultats qu'il voulait obtenir. Il a sa communauté qui est active. Quand il voudra passer à l'étape supérieure, il pourra revenir sur Live Mentor à ce moment-là, tu vois.
Donc première chose, tu vas essayer de découvrir pourquoi ils font les choses. Donc voilà. Tu vas creuser la personne et son projet pour savoir d'où ça vient.
Ouais.
Deuxième chose, tu vas raconter cette histoire.
Ouais.
Donc là, pour créer tu crées toujours du storytelling autour du projet, quoi. Ou en tout cas, tu le racontes, ce storytelling, sans forcément le créer de toute pièce.
Ouais.
Et ensuite, une fois que tu l'as raconté, tu vas le partager, c'est ça ? Tu vas prendre plein de petits morceaux pour que les gens puissent s'en imprégner, c'est ça ?
Il faut faire gaffe avec la notion de storytelling, parce qu'en France, elle est ultra mal connotée. Elle implique que tu es en train...
Mais c'est connoté avec des bobards, quoi.
Non, mais ça, c'est impliqué avec des hommes politiques où tu as des cabinets de storytelling et des mecs qui prennent des faits et les transforment. Moi, je suis en situation très différente. Je suis face à des élèves qui ne veulent pas parler d'eux, sont souvent pas légitimes et savent pas comment trouver les mots. Et je leur explique simplement de faire comme... tous les blogueurs qui vont naturellement dire bah voilà, je lance un blog sur tel sujet et voilà pourquoi je le fais.
Comment tu fais pour aider les gens à dépasser leur peur de montrer leur travail ou de montrer ça, c'est quelque chose de très fort.
Tu leur montres des exemples, tu leur montres des comparables, tu leur expliques aussi que chaque personne choisit son niveau d'exposition par rapport à son projet. T'es pas obligé d'aller mettre des vidéos sur YouTube de toi en maillot de bain, tu peux très bien uniquement faire une newsletter, tu peux très bien uniquement avoir une page Facebook. Tu choisis la nuance de gris, c'est pas blanc ou noir. Et puis ensuite, t'as donc cet aspect-là, cadrage du projet et stratégie. Et puis après, t'as des compétences techniques concrètes activables. Comment tu utilises Facebook? Comment ça fonctionne ce machin? Comment est-ce que tu montes un site sur WordPress? Comment tu fais du référencement naturel, comment tu fais une campagne d'email. Mais tout ça, en fait, c'est pas anecdotique, c'est très important, mais
c'est pas ça qui est compliqué. Les élèves pensent que c'est compliqué. Les élèves viennent me voir en me disant, j'en peux plus de WordPress, ça me rend fou, je sais pas comment faire un site. Et je leur dis, en fait, tu vas voir, on va creuser ensemble, tu vas te rendre compte que c'est très simple. Faut pas du tout avoir le syndrome du mécanicien, tu vas voir que c'est très facile. Ce qui est beaucoup plus dur.
C'est quoi le syndrome du mécanicien? Pardon, mais.
C'est, je sais pas du tout comment fonctionne mon scooter, je me dis que je pourrais jamais le réparer moi-même, donc d'accord, je vais voir un mécanicien et je paye une somme énorme.
D'accord.
Et t'as souvent ça sur les compétences techniques comme le référencement naturel, la création de sites web, l'emailing. Mais en fait, ça c'est pas très dur. C'est pas très dur. La technique, c'est pas très dur. La stratégie va être beaucoup plus difficile. Par exemple, pour les freelances, un thème qui revient très souvent, c'est la spécialisation. Quelle mission je veux faire? Est-ce que je veux aider des artisans? Est-ce que je veux faire des missions pour des PME? Est-ce que je veux faire des missions pour des grandes boîtes? Est-ce que je veux être graphiste? Est-ce que je veux être développeur?
C'est faire des choix parce que t'as peur de fermer des portes, sûrement. Ça, c'est très difficile de se spécialiser, je trouve, parce que t'as peur de t'enfermer.
Ah oui, mais pour
Alors
les porteurs.
En fait, c'est souvent comme ça que tu.
Mais pour les porteurs de projet, pour les porteurs de projet, c'est indispensable. Parce que toute la journée, tu dois faire des choix. Là où quand t'es employé, t'es sur les rails, on te donne une direction, donc t'as moins de choix à faire dans ta journée que quelqu'un.
La prise de décision, tu crois que c'est un muscle qui se travaille? Plus tu prends des décisions, plus tu sais prendre des décisions.
Je sais pas, peut-être. En tout cas, à partir du moment où t'arrives, je pense que c'est très compliqué de répondre à cette question parce que je crois que ça dépend du domaine. T'as des gens qui sont tout à fait capables de prendre des décisions rapidement sur des choix professionnels. Mais par contre, ils sont tétanisés à l'idée de savoir où partir en vacances, tétanisés à l'idée de savoir quoi acheter comme vêtements, qui vont avoir énormément de mal. Moi, je connais certaines personnes qui ont beaucoup de mal à décider de leur restaurant le midi. Mm. Chacun a ses domaines sur lesquels il a du mal à se décider.
Est-ce que t'as déjà dit à des gens qu'il fallait qu'ils arrêtent leur projet? Parce que c'était pas le bon projet pour eux, ou que c'était pas bien.
C'est rare que je dise il faut arrêter ce projet. Par contre, il m'est arrivé et il nous arrive souvent de dire là le projet doit évoluer, de poser des questions. Encore une fois, c'est l'élève qui arrive souvent à cette conclusion tout seul. Nous, on est là pour poser des questions. On n'est pas là pour juger le projet.
C'est intéressant ce que tu dis. On est là pour poser des questions.
On est vraiment pas là pour juger le projet. Qu'est-ce que j'en sais, moi, que tel projet de, je dis n'importe quoi, de micro-ondes connectées va marcher ou pas? J'en sais rien.
Tu sais que c'est trop intéressant parce que ça a vraiment un énorme parallèle avec Nouvelle École là-dessus. Je sais plus qui m'a dit ça sur Twitter. Je sais plus, mais il y a quelqu'un qui m'a dit quand est-ce qu'on va avoir des vrais débats ou des gens qui me demandent d'étaler des convictions un peu plus, alors que tu sais, je suis plus là à poser des questions quand même. Je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, en fait. Moi, j'en ai aucune idée. La plupart des sujets dont on parle, en fait, j'y connais rien. Tu vois? J'ai 25 ans, quoi. Donc, si tu veux, moi, t'expliquer le féminisme, si ça doit être comme ci, comme ça, les transgenres, enfin, qu'est-ce que j'en sais, tu vois? Et puis, même l'entrepreneuriat. D'ailleurs, moi, j'ai monté une boîte, je suis parti au bout de 10 mois. J'ai jamais monté Uber et j'ai jamais monté n'importe quelle boîte, tu vois.
La Nouvelle École, c'est un beau projet.
Oui, c'est bien, mais je veux dire, c'est qu'une expérience. Oui, c'est prendre ton expérience d'un truc qui marche un peu et dire voilà, maintenant faut que vous fassiez tous comme ça parce que mon truc a marché un peu. C'est comme lire The 4-Hour Workweek et faire OK, c'est bon, j'ai tout compris. Enfin, tu vois, toutes ces choses.
Non, mais je vais te donner un exemple. J'ai une élève que j'ai vue samedi, Diane, qui arrive. Donc, elle passe à l'école, chez Live, et elle me dit Alex, j'ai changé de projet. Je fais plus le même projet qu'il y a 2 mois. Je fais, ah, ok, d'accord, pourquoi? Elle dit, bah, parce que je suis allé à l'incubateur, parce qu'elle est dans un incubateur, je connais bien parce que je suis passé par cet incubateur.
tu ne nommeras pas.
Je n'aimerais pas. Et je suis passé devant le jury. Ils m'ont pris à l'incubateur, mais je leur ai présenté mon projet qui est du mentoring au sein des grandes boîtes. Comment est-ce que je peux, au sein d'une très grosse boîte, faire en sorte qu'il y ait des relations de mentorat qui se créent entre des managers et d'autres managers de la boîte. Et ils m'ont dit, ah mais attends, mais tu te rends compte, c'est impossible à mettre en place, la structure hiérarchique.
C'est un incubateur qui te dit que ta startup est impossible à faire.
Voilà, il te dit, mais ce projet, il peut pas marcher pour telle et telle raison.
C'est quand même intéressant ça comme concept. Mais...
Et donc elle vient me voir en me disant, voilà, ils m'ont dit que ça pouvait pas marcher. Donc j'ai complètement changé, maintenant... J'organise des ateliers dans Paris
pour apprendre à faire soi-même sa propre bière ou pour apprendre à construire un truc qui s'appelle le Imelis, hein, une sorte de lampadaire finlandais. Soit. ce que j'ai dit à Diane, c'est... Elle me dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je dis, mais j'en sais rien. je dis, le premier projet, il me semblait aussi génial, en fait, parce que tu me le racontais avec beaucoup de passion, tu étais super motivé. Le deuxième, tu me le racontes aussi avec plutôt pas mal de passion. Donc, go, en fait, moi, je vais jamais te dire ce projet est top ou ce projet est pas top. Par contre, je vais te poser des questions. Donc là, si tu viens me voir en me parlant des ateliers, ok, combien il y a de personnes à un atelier? D'accord. Combien coûte un atelier? D'accord. Combien de marge tu as sur cet atelier? Ok. Donc, est-ce que globalement, on a l'impression que le projet peut vivre à ton niveau et au niveau de ton associé? Pas pour une boîte de 200 personnes, mais juste pour vous deux. Ok, ça a l'air de tourner. Et on retombe après sur la question éternelle. Pourquoi ce projet? Est-ce que t'es vraiment motivé? Et c'est tout, quoi.
Ça, c'est
hyper
important.
Moi, j'ai en aucun cas la prétention de faire comme le directeur d'incubateur qui dit... Le marché macroéconomique ateliers à Paris n'est pas bon.
Mais parce que c'est trop difficile. Mais en fait, on en parlait au début. Hein, donc, il y a vraiment des gens qui ont cette capacité. Là, je m'entends en écho dans mon casque. Il y a vraiment des gens qui ont cette capacité à prendre un problème sur un marché, étudier le marché, attaquer le problème, faire une énorme boîte, la vendre. Tu vois, ils sont trop forts psychologiquement. Ils sont hyper hyper solides et j'ai énormément de respect pour ces gens. Moi, je suis incapable de faire ça parce que si j'arrive pas à me connecter émotionnellement à ce que je fais, je tombe en dépression. Comme ça a déjà été le cas. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc cette question de pourquoi, moi j'ai mis hyper longtemps avant de comprendre ça et j'aurais bien aimé comprendre plus tôt parce que alors, je veux te dire que les marchés dans cet appartement à faire des listes d'idées de vente de bière dans Paris, d'applications pour adopter un chien et de trucs d'éducation, j'en ai fait 12 000 quoi. Et des MVP.
Ah, t'as fait ça, t'as fait les listes d'idées.
Mais ouais, j'en ai fait plein. Parce que je croyais qu'il fallait que je trouve une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait plein de listes d'idées, mais j'en ai fait des pages et des pages et des pages. Et j'ai testé beaucoup d'idées. J'ai fait beaucoup de petites boîtes. J'ai fait beaucoup de petites. En fait, maintenant, j'appellerais ça du freelance. À l'époque, je croyais que je montais des startups, tu vois. En fait, c'était du freelance, quoi. Je vendais des trucs et on me payait. Parfois, on me payait. Souvent, on me payait pas. et en fait, c'était con parce que, Je ne le regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais si dès le départ, je me suis dit, bon, Antonin, arrête de délirer. En fait, tu t'en fous d'être entrepreneur. C'est pas ça. T'as envie juste de faire un truc que t'aimes bien faire, quoi. Et si je m'étais dit ça au début, ok, qu'est-ce que j'aime bien faire? Parce que du coup, ça simplifie vachement l'équation. Ça enlève ce problème d'ego qui est, faut que je sois entrepreneur. Peut-être que tu vas aller bosser dans une boîte qui fait déjà ce que tu veux faire hyper bien. Je veux dire, pourquoi pas, tu vois?
C'est super dur parce que rien dans, je pense, dans l'éducation traditionnelle, le collège, le lycée, la primaire, l'université, ne te forme à faire les bons choix quand tu lances un projet. Déjà, on n'apprend pas du tout à bosser en collectif, ce qui est quand même très important quand tu as un projet, parce que tu dois aller vers les autres et tu dois créer des relations, que ce soit des relations avec tes utilisateurs, avec ta première communauté, avec tes premiers clients, avec des actionnaires. Tu dois aller vers les autres et à l'école, on t'apprend pas ça. Tu regardes le dos de ton voisin et puis tu passes 10 ans à regarder le dos de ton voisin. Et puis quand tu passes pour faire un exposé, c'est l'énorme stress. On te forme pas à la prise de parole en public. T'es pas à ton aise. Ensuite, il y a quand même énormément de littérature sur comment protéger son idée, comment faire attention à la concurrence, ouais. Comment trouver la bonne idée.
Ouais, bien sûr.
Et donc moi je vois des élèves qui s'inventent des problèmes. Ça c'est assez affreux parce que déjà quand tu lances un projet t'as beaucoup de vrais problèmes, alors si tu t'en inventes en plus tu finis pas. Par exemple je peux te raconter deux trucs. J'ai un élève qui achète plein de bilans de boîtes sur société.com. il en achète plein de bilans et il me dit ah mais eux là ils font des chiffres d'affaires, eux ils en font pas, et moi je me tue à lui expliquer mais arrête de regarder ces bilans parce que ça veut pas dire, ça montre pas toute la vérité de la boîte. Déjà, il y a plein de montages financiers, fiscaux qui peuvent complètement rendre inefficace la lecture de ces bilans. Et ensuite, je me rappelle que moi, au tout début de Live Mentor, parce que là, je parle de mes élèves, mais moi, j'ai fait un nombre de conneries assez impressionnantes aussi. Je me rappelle qu'avec mon associé, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était envoyé une lettre en recommandé chez ma mère, disant en date du X janvier 2013, nous, Charles Lefebvre Dupré, Alexandre Dana, attestons avoir eu l'idée de Live Mentor. Deux points. Voici une définition du projet. Et là, on avait écrit quatre pages avec marqué à la fin, en référence à l'alinéa 13 du code des entreprises et de la propriété intellectuelle, personne ne pourra déposer ce projet après nous. Enfin, c'est un délire total.
Tu crois que c'est culturel ce truc? Parce que moi, je, en fait, c'est le premier réflexe des gens quand il y a une idée qui a l'air bonne ou un projet qui a l'air bien, c'est de se dire on va me le piquer. Moi, je me souviens de quand j'avais 16 ans, je faisais de la musique et quand même, faut quand même faut le faire. C'est que j'ai quand même imprimé les textes des chansons. Je sais pas, 6-7 chansons. Je les ai mis dans une enveloppe recommandée accusée de réception. Et je me les suis envoyées à moi-même, tu vois, pour attester du fait que j'avais eu mes idées, mes paroles de chansons. On parle de chansons d'un adolescent, enfin, en fait, le même adolescent que maintenant, hein, mais sauf qu'au lieu de faire des podcasts, il fait des chansons, quoi. Et bon, il y avait des gens qui écoutaient, mais enfin, j'étais pas non plus Drake, tu vois. Et donc, je me suis envoyé ce truc. Alors, enfin, t'imagines à quel point c'est absurde. Moi, quel point personne ne va prendre ce texte.
Je trouve ça exceptionnel.
Mais tu vois, et je le fais encore, ce truc-là. Tu sais, moi, c'est vraiment un effort permanent de me dire arrête de fumer ton crack, quoi. C'est-à-dire, par exemple, il y a tellement de résistance, en fait. Tu te mets toi-même, tu sais, c'est le concept du livre qui s'appelle The War of Art de Steven Pressfield, que j'ai trouvé que c'est un très bon livre et que je recommande beaucoup, qui parle de ce concept de résistance, et qu'à chaque fois que tu veux lancer quelque chose, un projet, un truc artistique, tu vas avoir de la résistance qui va se mettre entre toi et ce projet. Et la résistance, c'est tous les trucs qui servent à rien que tu fais. Par exemple, ou toutes tes addictions, les choses comme ça. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir écrire un long truc, tu vois, de fiction. Et alors je commence à écrire, je suis là, ah ouais, non, c'est chiant, c'est dur, tu vois. Et du coup, au lieu d'écrire, je vais faire un million de trucs. Je vais lire des bouquins sur comment écrire, par exemple, tu vois. Je vais aller marcher en écoutant des podcasts sur comment écrire. Je vais faire un grand tableau avec des colonnes. Et dedans, je vais mettre des post-it, je vais faire le plan de mon livre que je n'ai jamais commencé à écrire. Et finalement, je n'écris jamais ce livre. Et à la fin, je fais, ouais, en fait, c'est bon, ça m'a saoulé. Et j'écrirai jamais le bouquin, tu vois. Et je pense que ce qu'il faut travailler, enlever cette résistance, arrêter de fumer du crack sur ces trucs-là, parce qu'en fait, finalement, la réponse est toujours très très simple. Si tu veux écrire un livre, tu écris ton livre, en fait. Il n'y a pas d'autre manière d'écrire ton livre. Et si tu veux monter une boîte, tu trouves un client, tu vois.
Tu cherches la procédure parce que dans ton parcours scolaire, tu as été habitué à bosser avec des procédures. Voilà.
Oui, tu cherches le plan détaillé de ton projet.
Tu cherches le plan détaillé de ta dissertation, tu cherches la liste de questions de ton contrôle de maths. Tu cherches la procédure.
Parce que ça fait peur sinon, parce que en fait sinon c'est vraiment l'inconnu. Si tu commences à écrire ton livre sans plan, bah tu ne sais pas où te mène ta prochaine ligne.
En fait, il est possible de trouver un plan ou en tout cas un guide. Si tu veux, la meilleure manière de commencer à écrire, c'est d'aller parler à des écrivains et de leur demander comment est-ce que eux ils écrivent, mais d'avoir un retour direct.
Oui, mais si tu veux, si tu lis le bouquin.
Et après,
de...
bien sûr, il faut écrire.
Voilà, si tu lis le bouquin de Stephen King, qui est un très très bon livre que je recommande beaucoup, qui s'appelle On Writing, il te dit, en fait, c'est quand même 500 pages de conseils sur comment écrire, et à chaque chapitre, il te répète, mais tous ces conseils ne servent à rien. En fait, il vous suffit de lire beaucoup et d'écrire beaucoup. Il te le dit à chaque chapitre, tu vois. Il dit, c'est bien tout ça, c'est bien, oui, fermez la porte, buvez une tasse de citron, tu vois, je sais pas. Mais en fait, ça sert à rien si vous écrivez pas tous les jours et que vous lisez pas tous les jours.
Non, mais je l'ai lu cet été, il m'a fait autant rire que toi. Et je suis d'accord qu'à un moment, rien ne remplace l'expérience, mais t'es d'accord quand même que se rapprocher d'une manière ou d'une autre de personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi. Donc, par exemple, toi, tu veux écrire, lire le livre d'un écrivain.
Oui, c'est très important.
C'est important.
C'est important,
c'est déjà une première étape.
Mais je pense qu'en fait, on y met peut-être. Je veux pas parler pour les gens, mais moi, j'y ai mis beaucoup trop d'importance. Tu sais, je pense qu'en fait, un bon ratio, c'est peut-être 20%, 80%, tu vois, ou 30%, 70%. C'est-à-dire 20 à 30% d'apprentissage, de mentoring, de je lis des bouquins, de je rate des cours, etc. Et 70% de je fais, tu vois. Et non l'inverse.
Mais complètement. Mais d'ailleurs, je sais plus de quoi on parlait d'ailleurs à la base dans cette interview, mais.
On s'en fout.
En fait, quand j'ai commencé à faire des formations pour des gens qui ont un projet, j'ai découvert le monde du développement personnel. Qui a un monde. Chamarré.
Oh, mais tout se passait par là. Hein.
Un monde assez, assez fou où t'as des gens très bien et t'as les pires arnaques au monde. Et du coup, très souvent, j'ai des élèves qui connaissent encore mieux ce monde-là que moi, qui ont vu beaucoup de coachs, qui sont allés à plein de séminaires de développement personnel, de confiance, et qui me disent, Alexandre, j'ai un problème de confiance, j'ai un problème de confiance, quelle est la méthode de Live Mentor? Et c'est vrai que pour nous, mais c'est notre approche, il y en a sûrement d'autres qui sont valables, la seule manière d'avoir confiance en soi dans une entreprise, c'est de faire des choses. Tu te sens pas légitime d'écrire, commence à écrire. Une fois que tu auras écrit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu te sentiras légitime. Tu es freelance, tu as fait une, deux, trois missions, tu te sens pas encore légitime, bah, tu vas en refaire 10, tu te sentiras légitime. C'est en faisant qu'on devient forgeron, tout simplement.
C'est en forgeant
qu'on devient forgeron. En forgeant.
Toi, dans... Parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on parle, tu sais, le temps passe vite hein, quand on s'amuse. Comment toi, dans tout ça, tu me parles de Jesse qui poste une vidéo le vendredi soir à 19h30. Comment t'arrives à garder un certain équilibre, toi? Parce que je sais que parfois je passe chez Live Mentor des jours absurdes, comme le dimanche, par exemple, et que les bureaux sont vides, mais il y a toujours Alexandre Dana dans un coin du bureau.
C'est pas vrai, je suis pas au bureau tout le temps. J'y suis souvent. Écoute, moi ça va. Voilà, j'ai pas fait un. Quelle est la question?
T'es quelqu'un de stable émotionnellement?
Ouais, je pense. Globalement, ouais. Globalement, je suis toujours content d'enseigner. Ça fait encore une fois plusieurs années que je fais ça. J'aime enseigner.
Bon, la première question, c'était est-ce que t'as le sentiment d'être un peu un workaholic ou est-ce que t'arrives bien à gérer ça, à ton avis, à trouver une sorte d'équilibre?
Alors, je pense que j'aime bien la position du mentor. J'aime bien la position de l'élève aussi. Je prends pas mal de cours en dehors de Live Mentor.
Des cours de quoi?
Écoute, je prends des cours de yoga, par exemple. Je prenais des cours de chant l'an dernier. J'avais pris des cours de danse. Là, vendredi, je vais prendre des cours de théâtre. Et moi, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais je crois juste que ça marche plutôt bien pour moi parce que c'est la contraposée de ce que je fais au quotidien. Au quotidien, j'enseigne, donc en dehors de mon boulot, j'apprends. Voilà, j'enseigne, j'apprends.
Est-ce qu'à la fin, tu vas voir les profs en leur donnant du feedback sur leur...
Non. Non, moi je suis l'élève le plus discret qui soit. Okay. Moi, quand je suis en train de prendre un cours, je suis le bon élève modèle. Je fais exactement ce qu'on me dit. Quoi. Je coupe mon cerveau. Je vais pas être un élève très marrant. Mais voilà ce que je peux te dire sur l'équilibre vie perso vie pro. Après, chacun trouve sa routine, je pense.
C'est quoi ta routine? Comment tu fais pour quel est le secret de productivité d'Alexandre Dana? Parce que je sais que c'est des questions que les gens doivent se poser. Disons, est-ce que t'as compris quelque chose au fil des années qui t'a aidé dans ce qu'on pourrait appeler la productivité, ou même si c'est un peu un mot valise, tu sais?
J'utilise, alors, bon, dans les trucs un peu classiques, mais que je fais aussi, j'utilise beaucoup le calendrier. J'utilise énormément le calendrier. Toute ma vie est sur mon calendrier, enfin, toute ma vie professionnelle.
Ouais.
T'as 15-20 événements par jour, je pense. J'ai compris également dans les trucs très classiques, très terre à terre, mais qui m'aident beaucoup, que...
Est-ce que t'as une philosophie? Je te coupe, hein, parce que tu remarques que c'est un peu le...
C'est un peu le fil conducteur de cette interview.
Ouais,
ce
que je voulais plutôt savoir avant, concrètement, c'est est-ce que t'as une sorte de philosophie de ta productivité? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis toujours un peu à cheval entre différents trucs, mais depuis quelques mois, j'essaie de me concentrer sur... essayer de faire une chose importante par jour, tu vois. En fait, ça me permet, j'en fais souvent plus, mais ça me permet de me concentrer sur ce qui est vraiment très important et d'avoir un sentiment de satisfaction à la fin de la journée aussi. Parce que quoi qu'il arrive, chaque jour, je vais faire au moins une tâche qui me prend, allez, peut-être 2-3 heures de vraie concentration non interrompue et qui va m'aider en tout cas à être satisfait au niveau de mon travail. À l'opposé de remplir ma journée avec plein de petites tâches, en faire peut-être 70% et à la fin de la journée me dire c'était quoi cette journée de merde, j'ai rien fait d'important, etc. Tu vois?
Non, alors j'ai pas de philosophie dans la mesure où...
Est-ce qu'il y a un grand principe qui dicte ton organisation, quoi?
Je pense que je change de principe au fil du temps parce que je suis vraiment convaincu qu'il y a
plein de manières d'organiser sa vie. J'ai vu des types être ultra efficaces, ultra productifs en étant des paranos de la concentration, justement. C'est les types qui vont couper les notifications sur leur portable, mettre plein d'applications sur leur Mac pour couper Facebook, couper toutes les notifs. Il y a des gens qui sont extrêmement productifs comme ça, et j'en connais d'autres. Toi, j'ai une fille dans mon équipe qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle Anaïs. Moi, j'arrive près d'elle, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère. C'est-à-dire que je vois son bureau où t'as 12 000 papiers qui volent, où t'as du thé, elle fait beaucoup de cheval, donc parfois elle a des accessoires pour le cheval, genre une selle pour son cheval qui traîne là. Elle a sur son ordinateur 25 onglets ouverts avec notifications dans tous les sens. Cette fille, moi, j'ai jamais vu avoir un problème d'organisation dans son travail, quoi. Donc, déjà, je suis vraiment convaincu que ça, chacun trouve sa manière d'être organisé. Ensuite, pour moi, il y a effectivement, moi, j'ai des choses de très importantes pour moi qui sont la gestion du calendrier pour toute la vie pro et la gestion des mails. Ça me stresse énormément quand j'ai plein de mails. Donc, du coup, j'archive beaucoup de mails pour n'en voir que 5-6 maximum à chaque fois. Et enfin, je crois vraiment que, et c'est un peu ce que je fais avec Live Mentor, tu progresses mieux si tu t'entoures des bons mentors. Donc quand je suis face à un problème dont j'ai pas la réponse, je me demande qui autour de moi peut avoir cette réponse, qui je peux solliciter.
Ah, je vais te demander ça.
Et dans mon équipe, j'ai des gens qui m'ont fait progresser à une vitesse folle. Jesse, dont je parlais tout à l'heure, il m'a appris des choses, mais exceptionnelles, en un laps de temps très réduit. Anaïs, Charles, Romain, etc. Enfin, je pourrais en citer vraiment plusieurs.
Qui t'appelle quand c'est très difficile, par exemple, quand tu changes Live Mentor de tout au tout?
Moi, j'ai fondé Live Mentor avec Charles, et c'est vrai qu'on a une relation très proche, très fusionnelle, et on se parle tous les jours.
C'est lui qui t'appelle?
Ouais.
Et
on va à l'église, à côté des bureaux, si tu veux.
Vers un métier,
si tu veux un petit truc de routine qui fait développement personnel, mais que je recommande à peu de gens, parce que ça peut sembler bizarre.
Il faut parler dans le micro.
Il y a une église, donc à côté de mes bureaux, qui est toujours vide en journée.
C'est vraiment le truc que tu retrouves dans Tools of Titans. Là, tu sais.
Je suis pas catholique, je suis pas croyant. Je me baladais, je prenais souvent des pauses pour aller marcher pendant un quart d'heure autour des bureaux. Et moi, je suis dans le sentier, donc le quartier de Paris, où c'est un bordel sans nom, c'est affreux, il y a tout le temps du bruit, c'est tout le temps chaotique. Le seul endroit qui était calme, c'est l'église. Donc un jour, je suis rentré, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne et que c'était plutôt sympa comme endroit, c'est immense, il y a des chaises pour s'asseoir, c'est vraiment super reposant, donc souvent, je vais à l'église.
On va arriver un peu vers les dernières questions, parce qu'il va quand même falloir...
Il va falloir clôturer.
Alors clôturer. Faut moi j'aime bien parler avec toi.
Faut fermer boutique, Antoine.
En ce moment, il y a une vraie problématique pour moi, mais que je commence à résoudre. Quand un projet commence à marcher, tu es de plus en plus sollicité. Bon, moi, avant, c'était pas le cas, hein, parce que clairement, mes projets marchaient pas. Mais tu vois, tu vas avoir plus d'opportunités, plus de choses auxquelles tu peux participer, de gens qui vont vouloir te rencontrer, tu vois. Et du coup, ça implique la faculté de la capacité à dire non à des choses. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile de dire non, de savoir à quoi dire non, de savoir quand dire non et de savoir comment dire non, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, ça?
Ouais.
Parce qu'en plus, toi, tu as plein d'élèves, donc j'imagine qu'il doit y avoir énormément de tes élèves qui veulent soit prendre un café avec toi, soit faire des Skype avec toi, soit discuter, plus tous les entrepreneurs qui doivent avoir envie de te rencontrer, enfin plus plein d'autres choses comme ça, quoi.
Priorité aux élèves. Et je dis oui à tous les élèves. Ouais. Et pour le reste, je dis souvent non. je dis souvent non j'explique la raison de cette manière-là. Je dis que mon temps est principalement consacré aux élèves et que je leur dois mon attention. Voilà. Mais les gens acceptent. Hein, enfin, y a pas de... Personne va t'en vouloir de dire non.
Tu crois?
Ah, je pense vraiment que on t'en veut quand tu donnes pas de réponse. On t'en veut quand tu fais attendre. On t'en veut quand on te fait courir. Moi, j'ai un exemple.
Tu penses qu'il vaut mieux dire non que pas donner de réponse?
Oui. Très certainement.
T'avais un exemple?
Au cours des différentes levées de fonds de Live Mentor, il y a eu un fonds d'investissement qui nous a fait attendre pendant très longtemps. Très très longtemps. Et finalement, le jour où ils nous ont proposé quelque chose, c'est nous qui avons dit non et on a refusé en partie parce que on nous avait fait courir dans tous les sens.
On n'a pas parlé de ça rapidement, mais ils en ont pensé quoi, tes investisseurs, quand t'as changé le modèle de la boîte du jour au lendemain sans trop en parler?
Bah, au début, c'est très compliqué parce que tu rentres de vacances. Faut savoir un truc, quand tu lèves des fonds, t'as ce qu'on appelle un board, c'est un conseil d'actionnaires qui généralement ne se réunit pas durant l'été parce que c'est les vacances, c'est une tradition. Donc, après 2 mois de vacances, on les a réunis et c'est vrai que c'était un peu coucou. Surprise, nous faisons quelque chose de radicalement différent à ce qu'on faisait il y a 2 mois. Ça n'a pas été facile. Mais on a eu la chance d'avoir autour de la table des gens vraiment bienveillants. Pas forcément experts de notre domaine au début. Parce que l'éducation, c'est pas le sujet dans lequel il y a le plus d'investissement. Ces dernières années, on investit sur des modèles plus d'e-commerce, la livraison de nourriture, Deliveroo, les transports, le dating, les modèles publicitaires, bref, on n'investit pas toujours dans des écoles. Mais on est tombé sur des personnes qui avaient vraiment confiance en nous et qui nous ont dit au final, écoutez, c'est ce que vous voulez faire, si vous êtes heureux comme ça, nous on va pas s'y opposer. Mais juste montrez-nous que vous savez où vous allez. Et c'est vrai qu'au début, on savait pas trop où on allait. Ça s'est défini au fil des mois. Et on a beaucoup communiqué. Énormément, énormément. Constamment.
Qu'est-ce que tu ferais si tu te faisais virer de Live Mentor par ton board?
C'est quoi cette question?
Je sais pas. En fait, d'habitude, je dis qu'est-ce que tu ferais si tout s'arrêtait, mais je trouvais que c'était plus marrant de la poser comme ça.
C'est plus marrant. Bah, je donnerais des cours.
Tu reviendrais à donner des cours?
Je donnerais des cours sur Live Mentor. Ça y est, on me prend en tant que prof.
En fait, tu vas donner des cours toute ta vie, quoi.
Ça serait génial. Non, oui, je pense que je donnerais des cours. Mais je donnerais des cours dans une. Je pourrais donner des cours dans une école physique. Ouais, je donnerais des cours. Ça serait très bien.
Eh ben, merci Alexandre Dana d'être repassé sur Nouvelle École.
Merci Antonin.
Cette fois-ci, t'es passé en bonne et due forme sur le vrai format.
Parfait.
T'as vu, on n'a pas de notes, on a les pieds sur la table.
Ah oui, non mais là, on est passé à un autre niveau de Nouvelle École. Hein. Détente totale.
Détente totale, mais pour une ambiance intime avec des bougies. On a déjà dit la dernière fois, mais où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui veulent en savoir plus sur toi sur...
Livementor.com. Livementor.com, ça fonctionne très bien, ou sur Twitter. Quoi.
Sachant que je serai avec toi bientôt pour...
Et oui, tu vas être avec nous le 15 décembre. Puisqu'on organise un événement d'une journée dédié à l'entrepreneuriat dans un théâtre à Paris, Théâtre Apollo. Et on a réuni donc nos élèves de formation avancée. Il va y avoir au total près de 200 personnes. Et on fait des conférences tout au long de la journée. Toi, tu vas bien sûr raconter ton parcours. Et on va avoir d'autres speakers.
Je vais essayer de le storyteller un peu cette fois-ci.
Bah, écoute, tu seras dans l'autre position cette
J'ai
fois.
J'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était... À l'interview Alexandre Dana.
C'est toi qui vas répondre aux questions. Ça te fait du bien. Non, on est super content parce que, bah justement, enfin, dernier point, tiens, après, on va vraiment finir cette interview à rallonge. Pour quelqu'un qui est porteur de projet, à la différence de quelqu'un qui cherche un métier ou quelqu'un qui passe un examen comme le bac, ce qui compte énormément, c'est les rencontres. Et je me suis rendu compte que mes élèves organisaient beaucoup de rencontres entre eux. Et je me suis dit, il serait peut-être temps, Alex, que tu te bouges et que tu organises quelque chose pour les aider. Donc, on organise cette journée, c'est une première étape. Et on est super excités, on est juste hallucinés par l'enthousiasme des élèves. Il y en a certains qui viennent d'assez loin, de Bordeaux, de Belgique. On a un élève qui vient du Canada, exprès pour la journée. Donc, ça va être très sympa.
Merci, Alexandre Dana, d'être
merci à toi.
Nouvelle École. Salut.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.